Coucou les movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement naturel, du développement personnel, de la conscience, de l'alimentation, bref, de tous les outils dont on a besoin pour optimiser notre expérience de vie sur Terre et exploiter notre potentiel humain entièrement. Ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Florian Rousseau du MMA Fight Club Gym de Tours, un ami, un frère de lumière, un mover avec lequel j'ai partagé énormément d'expériences, un des premiers movers en France qui m'a accueilli pour que j'organise des stages de mouvement et de mobilité, il y a de ça maintenant 3 ans déjà, et avec lequel on a pu explorer aussi différentes aventures, différents roadwork pour des combats de MMA. Donc Florian est un combattant professionnel. Il est le gérant de la salle MMA Fight Club Gym, qui est une salle, pas comme les autres, c'est une salle d'arts martiaux mixtes, mais également une salle de développement personnel. Et vous allez le voir au cours de cet épisode, on aborde les sujets du développement personnel, des arts martiaux, du voyage, mais également d'autres outils un peu plus spirituels, un peu plus alternatifs, qui sont peu communiqués malheureusement et qui pourtant ont leur place comme outils d'émancipation et de développement du corps, du cœur et de l'esprit. Florian est un aventurier, un explorateur. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux qui a un parcours entrepreneurial dans lequel il rentre en détail dans cet épisode. Et vous allez le voir que voilà, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de choses, d'oser vivre la vie qu'il a vécue et d'oser créer et d'oser faire tous les services qu'il a pu créer, d'aider les gens, de rassembler, de créer une communauté, de fédérer. Vraiment une inspiration en termes entrepreneurial. Et il va pas hésiter à nous partager voilà le bon comme le moins bon, l'épique comme l'échec. Voilà une belle dose d'inspiration pour celles et ceux qui sont peut-être au bord du gouffre et qui veulent se tenter une belle aventure de création de projet. On vient également sur son parcours de combattant avec lequel il n'hésite pas à allier la pratique martiale avec la philosophie martiale et qui s'étend évidemment à une philosophie de vie. Comment gérer sa vie, comment gérer ses émotions, comment gérer son stress, comment gagner petit à petit en estime de soi, en confiance en soi, et l'importance de nouveau de revenir aux fondamentaux que sont l'amour et l'altruisme, et à quel point c'est important de se rappeler voilà qu'on vit en communauté, et voilà que si on s'améliore soi, on pourra de nouveau aimer et aider les autres. Et une troisième partie absolument cosmique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles je voulais inviter Florian sur ce podcast. Il faut savoir que je l'ai traqué depuis 1 an pour qu'il vienne nous aborder le sujet des états de conscience alternés et notamment l'utilisation des plantes pour justement avoir un accès privilégié à ce monde de l'intangible, ce monde de l'immatériel et pourtant ce monde qui a tellement à nous offrir, ce monde de l'inconscient, ce monde de la dimension alternée dans lesquelles on peut puiser. Peut-être on peut se ressourcer et puiser les plus grosses gemmes de sagesse. Voilà, Florian est un explorateur. Il n'hésite pas à ouvrir son cœur et à nous partager ses expériences comme il les a vécues. Donc voilà, j'invite évidemment à l'ouverture d'esprit et la positivité dans ce que vous allez entendre. Mais voilà, ça a le mérite d'être partagé et je suis ravi qu'on ait pris le temps avec le bon flow d'aborder tous ces sujets. Voilà, un épisode complet autour des arts martiaux, des voyages, de l'entrepreneuriat et de la spiritualité. Je vous laisse découvrir Florian, son franc-parler, sa bonne humeur, son enthousiasme, sa positivité. Et on se retrouve en fin d'épisode pour le petit récapitulatif comme d'habitude. Movers, épisode 36 avec Florian Rousseau. C'est parti. Bienvenue mon Flo, merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'ai traqué quand même hein, pour que tu viennes sur mon podcast. Il faut que les gens le sachent. Hein. Ouais. Ça fait à peu près 1 an que je te traque, alors que j'ai eu 1 an que je suis sur tes côtes, alors que j'ai eu le bon Fabien à l'épisode 6. Ouais. Tu vois, moi au tout début, je m'étais dit que j'allais inviter d'abord mes amis proches, tu vois, pour gagner en confiance, etc. Et toi, tu t'es échappé, tu vois, tu as évité les mailles de mon filet. Mais en tout cas, je suis ravi de t'avoir maintenant. Et c'est peut-être d'ailleurs mieux, c'est peut-être un signe. Tu vois, comme ça, on a des choses peut-être plus pertinentes à partager en cette phase de déconfinement. Comment tu vas, mon Flo? La première question. Comment ça va, toi, dans la vie?
Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. Tu vois, en vacances, là, depuis le mois d'août. Vacances vite def, hein, tu vois, est-ce qui s'est passé cette année là, donc là on est en train de préparer un petit peu la rentrée de septembre. Ouais. Sinon, petit perso, nickel, tu vois, je porte une petite semaine en vacances. Là, je suis sur Tours, je donne plus de cours, donc je prépare tranquillement la rentrée.
Magnifique. Et là, justement, c'est comment là, ça a été comment l'aventure Covid pour un gérant de salle comme toi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Toutes ces péripéties là, t'en
Ah
es
ben,
où?
impeccable, hein? Impeccable. Pour la petite histoire que je te dis, tu sais, j'avais fait, du coup, ça fait 7 ans que j'ai la salle, et j'avais fait, du coup, 4 ans en asso, 3 ans en entreprise. Donc, j'ai fait 1 an d'entreprise, du coup, complète, où ça allait. Mais après, deuxième, troisième année Covid, donc, bah, c'était la
Waouh.
merde. C'était vraiment la
Waouh,
merde. Donc là, on a fait, on n'a rien fait, qu'on a fermé en novembre. Et tu vois, après, bah, juste nous, avec les profs, on s'est entraîné un petit peu, tu vois, jusqu'au mois de juin. On a rouvert au mois de juin, mais on a rouvert juin, juillet. Et août fermé, puisqu'il n'y a personne. Donc c'était ouais, carrément la galère. Après, le point positif, on a pu avancer sur tous les projets où on était en retard. Tu vois, mine de rien, il y a des points positifs, hein, dans chaque situation. Celui-là,
exactement.
c'était d'avancer sur, bah, voilà, sur tous les projets où j'ai pris du retard. Donc non, bah, comme je dis, c'est une épreuve à passer, hein. Si j'arrive à passer après ça, ce serait pas mal normalement, je pense. Un bon step déjà. Survie de ça déjà, c'est un bon step passé.
C'est un bon truc. Moi, je me rappelle à la salle, c'est toujours, c'est un espace que même avec tous les voyages, j'ai pas revu, en fait. Tu vois, même quand tu penses aux grands établissements de MMA, genre le Tiger Muay Thai ou ce qui peut se faire aux États-Unis, Top Team et tout, j'ai jamais vu ou retrouvé cet esprit qu'il y a dans ta salle, parce que c'est un peu la salle MMA holistique. Tu vois, c'est la salle qui intègre d'autres aspects, d'autres dimensions. Tu vois, je me rappelle, tu avais la naturopathie, tu avais les collaborations avec les petits restos à côté, tu avais la réflexologie, le yoga, etc.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce gros projet et comment toi, tu as réussi un peu à matérialiser cette vision d'une salle d'arts martiaux qui va un peu plus loin que la pratique physique?
Ouais. Bah, sur le projet, bon, on en avait parlé, c'est quand on s'était rencontrés, où je voulais une salle, du coup j'ai monté une salle de MMA, mais moi mon but, c'est monter une salle de développement personnel. Bon, ça peut être un peu vague, mais voilà, le but, c'était que chaque personne qui vient à la salle, peu importe son profil, on puisse s'adapter à elle ou pouvoir répondre à ses questions ou à ses problèmes, c'est-à-dire le côté physique et le côté mental. Voilà, pour moi, les arts martiaux, c'est physique et mental. Donc moi, c'est vraiment travailler ces deux, pas que sur l'aspect physique, il y avait l'aspect mental qui rentre en jeu, et l'aspect, voilà, aussi, comme on disait, santé, avec le kiné, naturopathe, enfin, c'est tout un ensemble. Tout un ensemble mindset, en fait, des arts martiaux, quoi.
Ouais. Et ça t'est venu comment là pour ceux qui connaissent pas un peu l'histoire de bah, ton histoire personnelle, tu vois, comment t'es tombé toi dans les arts martiaux et comment t'as pu très tôt, parce que tu vois, on a le même âge, mais on est jeune, t'as déjà un peu cet esprit un peu plus sage, du maître sage, maître en arts martiaux sage.
Ça, c'est la magie des sports de combat et des arts martiaux. Non, bah, j'ai commencé, du coup, bah, avant, j'ai toujours été très sportif. Depuis toujours, hein, c'était mon point fort, hein. De toute façon, je l'ai bien vu à l'école. Les cours moyens, le sport, ça allait. Donc du coup, mais j'avais pas ça en tête, hein, même au collège et tout, j'ai jamais eu ça en tête. Le seul truc que j'ai eu en tête, c'était faire un truc qui me plaît. Je m'en foutais de gagner de l'argent, mais voilà, mon credo, c'était faire un truc qui me plaît. Je me suis martelé ça, et du coup, bah voilà, j'ai fait du foot pendant 5 ans, du tennis, enfin tout ce que tu veux. Et j'ai commencé, du coup, les sports de combat. C'était quoi, il y a 10 ans, du coup. J'ai fait 1 an de jiu-jitsu traditionnel, et du coup, bah, j'ai bien adhéré. Et tous les week-ends, je m'entraînais avec mes potes, en fait, sur le lit, dans le jardin, dans des champs, tous les week-ends. Donc mine de rien, je commençais à prendre, bah, un petit niveau au sol, et du coup, on m'a parlé. C'était même pas le MMA, hein, c'était le free fight à l'époque. Donc tu vois, le truc bien vénère quand tu te le dis. Et moi, qui suis non violent, rien, j'étais là-haut, on va voir. Parce que le jiu-jitsu, c'était bien, mais il manquait quelque chose. Tu vois, en kimono, il n'y avait pas de frappe debout. Enfin voilà, c'était. Un peu, pour moi, un peu le judo à l'ancienne, tu vois, je m'ennuyais un petit peu. Du coup, j'ai commencé le free fight, bah, dans une salle, là, à Tours, bah, où j'ai rencontré les autres profs, au Tours Free Fight. Et bah, il s'est avéré que, bah, ça m'a plu, et je me débrouillais bien. Donc en 3-4 mois, ils m'ont fait combattre. Donc, ce qui était très tôt, hein, en soi, normalement, il n'y avait pas à le faire, mais bon, ils m'ont lancé, j'y suis allé. Et j'ai gagné le premier combat, deuxième, troisième, quatrième, je voyais que je me débrouillais bien. Après, j'ai pris des gars très chauds aussi, donc j'ai pris des branlés aussi. Et voilà, donc je suis passé, voilà, je suis allé dans le club, je suis arrivé en tant qu'adhérent, ensuite combattant. Ensuite, ils m'ont passé entraîneur au bout de la quatrième année. Mais tout pareil, un petit peu précocement, tu vois, c'était un peu précoce, mais bon, voilà, j'ai appris sur le tas, quoi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après de passer entraîneur, le gérant, enfin le président de l'asso, là, de cette salle-là, il a voulu tout arrêter. Et moi, j'étais le plus légitime à vouloir reprendre. Enfin, déjà, j'étais le premier à lui dire, bah, je te rachète la salle, enfin, je te rachète le matos. J'ai pas racheté la salle. Il a voulu tout arrêter. J'ai dit, bah, ça serait bête de perdre l'aventure à MMA, en fait, surtout. Donc, il m'a, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, je te rachète le matos. Donc, il y avait une cage, un tapis, des rings. Et après, je me suis débrouillé à monter mon assaut à côté, en 2014.
Magnifique. Ça, c'est la vraie aventure, mec. Tu me vends du rêve en racontant tout ça, parce que tu sais, maintenant, l'aventure, on va dire, entrepreneuriale, elle est très digitalisée, tu vois. C'est un peu, j'ai pas envie de dire que c'est plus facile, mais c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus accessible à tout le monde, tu vois. Même les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui rêvent un peu de ce côté, tu sais, digital nomade, tu bosses sur ton ordi, etc. Ouais. Alors qu'à l'opposé, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, des rares potes que j'ai qui sont aussi dans cet esprit entrepreneurial digital, on rêve tous de l'opposé. On rêve tous de faire un truc physique parce qu'on en a marre, en fait. Tu vois, on en a marre d'être devant les écrans, etc. Et toi, c'est marrant que t'aies fait ça directement, que t'aies foncé pleine balle et que t'aies, comme tu l'as dit, t'apprends sur le tas et tu t'adaptes. Et justement, toi, comment t'as pu, où est-ce que t'as pu apprendre, en fait, à être un entrepreneur, à être un gérant de salle? Comment c'est arrivé tout ça, quoi? Au moment où tu récupères la salle, tu récupères le matos, qu'est-ce que tu te dis? Les clients, l'argent, comme ça, comment ça tourne un peu dans ta tête?
Et ouais, parce que du coup, j'avais aucune connaissance sur monter une entreprise ou monter une asso, machin. Après, moi, j'ai un point fort, je sais très bien m'entourer. En fait, c'est un de mes points forts parce que je sais pas tout faire, ça je le dis. Hein, il y a plein de trucs, j'ai pas de connaissance sur pas mal de choses, surtout sur le monde de l'entreprise. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est je me suis lancé déjà, première chose. Et après, j'étais, buté. C'est-à-dire que je voulais quelque chose. Dans tous les cas, même si j'ai des couilles ou quoi que ce soit, je l'aurai. Donc, je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai réussi à m'arranger un petit peu, pour que ce soit sur le juridique, que ce soit sur l'investissement. J'ai ma famille qui m'ont aidé, des potes qui m'ont aidé aussi à installer la salle. Hein. J'ai pas tout fait tout seul, bien sûr. J'ai eu pas mal d'aide aussi, que ce soit mes parents ou des potes pour, par exemple, pour les travaux à la salle, pour installer, pour tout ça. Et après, moi, je l'ai fait sur le tas. Moi, je suis pas du genre à me poser, faire un plan et dire bon, on va travailler comme ça. Moi, je rentre dans le tas et en fait, j'adapte après en fonction.
J'adore.
Bah, c'est une méthode. Hein, allez. Après, je l'ai compris. Hein, c'est ma méthode. J'arrive pas à être ordonné. Donc moi, je tente et dès qu'il y a des petits problèmes, des petits soucis, je les règle sur le compte-gouttes. Et ce qui me permet d'acquérir pas mal d'expérience après derrière. Parce que plus t'as de merde, plus t'as d'expérience après derrière. Si t'en arrives à t'en sortir de ces situations. C'est ma méthode, on va dire.
Non, mais c'est important de partager ce que...
Ça dépend des gens.
Exactement, ça dépend des gens. Mais c'est vrai que c'est important de le partager parce que maintenant, on essaye un peu de tout codifier. Ok, tu veux lancer, je sais pas, une salle, il te faut tant, il te faut un prêt à la banque, il te faut ça. Alors qu'au final, comme tu as dit, quoi, le truc le plus organique et naturel, c'est qu'on se dans le tas, quoi. Et tu verras bien.
Bah, c'est ça, c'est lié un peu avec l'espoir de combat, je pense. L'espoir de combat, c'est... Tu vois, t'apprends pas l'espoir de combat derrière un bureau ou derrière un ordi, tu vois, faut que tu ailles, tu tentes, tu prends des branlées, tu y retournes, tu y gagnes, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu y vas, et faut enchaîner, et c'est comme ça, du coup. Moi, je pense que mon côté entrepreneuriat est complètement vu de mon côté de combattant. Je pense que je me serais peut-être pas lancé là-dedans si j'avais pas été, du coup, pris confiance en moi, parce que ça, on en reviendra dessus, mais bon, pour moi, c'est la première des choses qui a fait que j'ai pu développer tout ça. Mais mon côté combattant a fait que oui, j'ai pu entreprendre derrière et, être confiant en moi et savoir me dire, j'ai été tapé dans une cage au Brésil. Ah, pour aller demander un prêt, je vais pas, tu vois ce que je veux dire? Il y a une tête derrière.
Quand tu... Ah, mais c'est vrai. Ça recalibre les choses, tu vois.
Exactement, quand tu veux. Après, tu relativises un petit peu, c'est ce que je me suis dit, quand tu pars combattre à droite, à gauche, à travers le monde, que t'es tout seul, que tu t'entraînes tout seul. Derrière, moi, niveau stress, soit on me le dit, ça va. Il m'en faut quand même.
Il est détente, le Flo.
Ah bah, faut ce que c'est.
Il est à la brésilienne, tu vois. Ouais. Ça se détend. Mais c'est vrai, t'as raison. Et au final, c'est ça qui fait que t'arrives à avancer. Parce que, comme tu dis, je pense la capacité pour rebondir, la capacité pour déjà pas stresser quand il y a un imprévu.
Ouais.
En fait, c'est ça, tu pourras jamais l'apprendre théoriquement.
Non.
C'est la vie, en fait, qui te forme à ça. Et c'est vrai qu'avoir une pratique difficile qui te permet d'y accéder, c'est fantastique. Et là, justement, là, sur cet aspect art martial comme outil pour regagner son estime de soi, sa confiance en soi, toi, dans ton expérience personnelle, comment ça s'est traduit? Comment t'as vu ta propre évolution à mesure que tu t'augmentais en compétences martiales, on va dire?
Je l'ai vu au final, dans le sens, quand j'ai commencé directement dans le club, là, sur le... Tour Free Fight là, tu vois, j'étais introverti. Tu vois, moi, je suis pas le mec qui va. Déjà, je suis pas le mec vénère. Hein, je suis pas là à m'énerver rapidement. Je suis plutôt introverti. Tu vois, je suis plutôt discret. Et c'est pour ça que ça étonnait pas mal. Je te donne un exemple. Quand je jouais au foot, ah voilà, il y avait des bastons au foot, j'y allais pas. Tu vois, j'étais dans mon coin, j'étais pas la victime du club, tu vois ce que je veux dire, mais par contre, j'étais pas là bagarreur, rentrer dedans à... Moi, j'aimais le sport en fait. Tu vois ce que je veux dire, je suis bon perdant, j'aime bien gagner aussi, mais tu vois, je suis très compétiteur par contre, ça y a pas de souci. Mais voilà, je peux perdre, il y a pas de souci, moi je suis vraiment amoureux du sport. Donc les sports de combat, ça m'a amené ce côté complètement différent. On se dit putain, tu fais un sport de combat, bah c'est que t'aimes la castagne, c'est que t'es vénère, c'est que t'es violent, machin. Après, mon mentor, entre guillemets, était un peu Georges Saint-Pierre, donc ça a dû jouer un petit peu, tu vois, ce côté-là, combattant tranquille. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis de me développer un peu sur ce côté-là, prendre confiance en moi, en mode, bah voilà, je sais faire des sports de combat, par contre, je sais, voilà, rester calme derrière, et j'essaie vraiment de maintenir ce côté-là à pas gonfler, à pas, voilà, à pas me dire, je fais du MMA, je peux prier, je peux prendre tout le monde, je peux piller tout le monde, rester humble là-dessus. Donc moi, c'est ce qui m'a aidé là-dessus à reprendre confiance en moi et me dire bah voilà, si je me suis prouvé mes choses à moi en fait. Première des choses, c'est faut être bien avec soi avant d'être bien avec les autres. Donc je me suis prouvé déjà ce qu'il fallait en moi et après derrière ça, bah, ça a glissé, mais ça a laissé dérouler les choses.
Magnifique, magnifique. C'est vrai que c'est un bon. Tu mentionnes la Georges Saint-Pierre là, que c'est l'exemple parfait en fait de cette approche-là. Ouais. Lui pour le coup, l'ancienne victime à l'école,
ouais,
et qui maintenant en fait il est. C'est vraiment le sage, quoi. Il dit, voilà, moi, je fais ce que je fais, alors que le mec, t'es invaincu, une légende du sport, il a tabassé tout le monde, tu vois. Et au final, il te dit, avant chaque combat, j'ai peur.
Ouais, c'est ça.
Voilà, j'essaye de me gérer, j'essaye de gérer mes émotions, j'essaye d'apprendre ça. Ouais. Et là, justement, est-ce qu'il y a un peu de, est-ce que tu peux nous parler aussi de cet aspect-là, l'avant-combat, l'appréhension? Et partager un peu tes expériences de voyage et de castagne à l'étranger. Ouais. Là.
Et bah, les premiers combats, du coup, comme je t'ai dit, jusqu'au quatrième, ça allait. J'avais des mecs de mon niveau, hein, tu vois, je faisais des bonnes guerres, c'était cohérent. Après, ça s'est un peu corsé parce que du coup, au niveau gestion, à l'époque, tu vois, il y avait rien. Tu vois, il y avait pas de gestion, ouais, de carrière, il y avait pas grand chose. Donc moi, je partais un petit peu à l'aventure. Ça m'arrivait de partir en combat solo, tu vois, avec deux potes à moi, un qui faisait du foot, un du basket, contre un poulain en plus à Cyril Diabaté. Enfin, il y a eu des trucs, tu vois, niveau carrière. Moi, j'ai fait un peu tout. C'est vrai que ça a mal été. Je l'ai mal géré. Après, il y avait pas forcément aussi du monde pour m'accompagner sur ces choses-là. Après, je regrette pas, hein. Justement, ça m'a fait faire un petit peu le tour du monde et voilà, j'ai pris des branlées par des bons, j'ai réussi à en battre des meilleurs aussi, perdre par des moins bons aussi, donc ça m'a pris pas mal de choses. Mais sur le combat, ouais, à la base, moi, j'étais pas fait pour ça. Par exemple, la castagne, il y a un combat, ça m'est arrivé le troisième combat, où j'osais pas frapper le gars. Pour dire, tu vois, le niveau du truc, je voulais pas le taper, en fait. Tellement j'étais pas dans ce cas de chercher, de cogner. Donc au sol, il y a pas de souci, parce qu'il y a pas de frappe. Et ça m'est arrivé là, je me dis ouais, là faut faire quelque chose. Après, j'ai gagné le combat quand même. Je l'ai gagné quand même, du coup au sol, hein. Mais après ce combat, je dis ouais, faut faire quelque chose parce que t'as pas ce côté hargneux qu'il faut en combat, tu vois. Pas vénère, mais avoir la hargne sur le combat et cette détermination. Je dis là, faut travailler là-dessus parce que du coup, si tu fais des combats et que t'oses pas taper l'adversaire, il va y avoir un petit souci. Hein. Donc du coup, j'ai travaillé là-dessus un petit peu, hein, tout doute. En fait, c'est un peu compliqué. Donc après voilà, j'ai travaillé là-dessus toujours bah chaque combat avant combat, je me demande qu'est-ce que je branle là, comme beaucoup de combattants, hein. Les 10-15 minutes avant le combat, enfin, un peu avant, t'es là, qu'est-ce que tu branles ici, tu vois, je pourrais faire du foot, je pourrais faire machin. Donc toujours une grosse pression et il y a vraiment, moi c'est ça que c'est un peu spécial, c'est que sur beaucoup de combats en fait, je les ai faits. J'ai pas forcément kiffé. J'ai jamais réussi vraiment à me lâcher sauf sur mes derniers combats là. Tu vois, il y a vraiment le dernier combat que j'ai fait donc contre Roman Molodic. D'ailleurs, paix à lui, parce qu'il est décédé déjà l'année dernière. Petite pensée pour lui. Et du coup, il y a vraiment sur les deux derniers combats que j'ai fait où j'ai vraiment réussi à me lâcher et à vraiment profiter et kiffer pendant l'instant du combat. Parce que les autres combats, quand j'étais dedans, t'étais dans la bulle, voilà, tu vois pas ce qui se passe. Là, sur ces deux derniers combats, j'ai réussi à me lâcher et m'exprimer un peu plus. Donc moi, ça a mis du temps quand même avant que j'arrive à être serein, à être relâché pendant le combat et kiffer vraiment le moment, quoi. Je veux pas dire que je faisais les combats à reculons, les autres combats, mais j'y allais, mais voilà, j'étais pas forcément, tu vois, content à 100%. Je le faisais parce que j'avais besoin, fallait que voilà, je me prouve et que je me dépasse. Au fond de moi, j'aimais bien ça, mais voilà, j'y allais pas en mode c'est la fête, c'est content, je vais kiffer, quoi.
C'est super que tu parles de ça parce que c'est un truc qu'on entend peu souvent. Comme on voit que les superstars et les mecs de maintenant, les gars de l'UFC, et qu'en fait, eux, ils sont à un moment de leur vie en fait, où ils prennent du plaisir.
Ouais.
Mais tu vois pas tout ce qui se passe au début. Mmh. Et ce qui se passe au début, c'est vrai que pour tout le monde, c'est ça. Ce que tu dis là, ça me rappelle aussi mes premières expériences. Ça a jamais été autant un plaisir que plus tard, en fait. Plus tard, tu commences un peu à te déverrouiller, à prendre du plaisir.
Ouais.
Mais au tout début, il y a trop de choses dans la tête. Il y a trop d'obstacles, quoi. Il y a trop de... T'as trop le petit singe dans la cage, tu vois, dans ton cerveau qui te dit des trucs, et il y a trop cette petite voix qui parle en permanence de tu veux prouver ça, tu veux faire bien. Tu sais, moi
Exactement.
j'avais ce truc de je veux que tout soit parfait en fait. Tu sais, je veux que ça, visuellement. Moi j'ai toujours été un peu obsédé par ça, par l'esthétique des choses, par la beauté des gestes, et je voulais que tout soit parfait.
Ouais.
Je voulais pas, par exemple, glisser ou être déséquilibré. Je déteste ce genre de truc.
Ouais.
Et au début, ça me Comme tu disais, ça t'handicape parce que ça te bloque en fait. Littéralement, tu n'arrives pas à lâcher tes bras, lâcher tes jambes parce que tu réfléchis trop à « il faut que ça soit joli ». Tu vois, en tout cas, moi, c'était mon cas. Alors qu'après, au bout d'un moment, tu dis, bah, tu lâches l'affaire, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et lâcher prise, et c'est là où là, ça déroule et le corps, il fait tout seul.
Ouais,
Et ça, c'est vrai que
c'est exactement ça. Moi,
c'est pas quelque chose d'évident. Hein.
j'ai eu la même sur le regard des autres, enfin un peu comme beaucoup de personnes aussi, parce que ça reste humain, mais sur le regard des autres, sur voilà, bah comment je vais faire, comment je vais partir, je me posais des fois la question, est-ce que je pars au combat pour moi ou je pars pour les autres? Tu vois, et ça, j'ai longuement réfléchi, est-ce que je vais combattre pour moi ou pour représenter et me dire, bah, voilà, je pars en combat, je fais ceci, je fais cela. J'ai pensé, je me suis dit quand même, j'ai fait environ 13 combats MMA, ça ferait beaucoup quand même, tu vois. J'ai douté sur le milieu de ma carrière, est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres? Et honnêtement, je me dis, je serais vraiment quand même, si je fais ça pour les autres, à me casser la gueule à chaque fois et en chier autant sur la prépa, c'est vraiment que je suis con derrière. Donc, je savais qu'au début, il y avait peut-être un peu de reconnaissance, un peu de machin. Et après, j'ai compris au bout du cinquième, sixième, septième combat que je faisais ça pour moi. Parce que trop de contraintes derrière juste pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai quand même eu cette question. Il y a quand même cette question de voilà, tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? Et je pense que cette question, elle est importante aussi. Parce que si tu veux tenir sur une carrière, après, c'est sûr que c'est pour toi. Les mecs qui ont une dizaine, quinzaine de combats, je pense qu'ils le font pour eux. Tu peux le faire. On en a vu beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup à la salle. Ils vont faire un, deux combats MMA. Ils vont perdre. Tu les revois plus. Tu vois, des mecs qui ont commencé avec moi il y a 10 ans. Là, sur tour, on doit être que 6 à avoir continué le MMA. Et je te dis ça sur 10 ans. Si tu vois, si tu comptes, je sais pas, 200 adhérents par année. Ça commence à faire, il y en a eu, je peux pas dire un chiffre exact, mais tu vois, sur 8000 adhérents qu'on a vus, on est 6, 7 à avoir continué le MMA. Parce qu'après, c'est une mode aussi, et moi, il faut en vivre après. Hein. Parce que faire du MMA, si t'en vis pas, si tu combats pas, c'est dur. C'est un sport qui reste dur, donc c'est vrai qu'à faire en loisir, sur 5, 6, 7 ans, c'est rare, t'en vois pas beaucoup. T'en vois pas beaucoup. Il y en a, hein. Le JJB plus facilement, parce que du coup, il n'y a pas les frappes, t'as moins, voilà, t'as un peu moins de percussions, moins de dégâts pour le corps. Mais c'est vrai qu'en faire sur le long terme en loisir, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. De ce que j'ai vu.
C'est vrai que ça reste quelque chose qui demande un peu comment dire, un feu, tu sais, pendant une très courte période.
Ouais.
Il faut que tu aies un peu ce côté-là de, pendant quelques années, j'y m'y mets à fond parce que c'est pas un truc, en fait, qui va durer pour la vie. Là où les arts martiaux, ça dure. La pratique martiale, la philosophie. Mais la pratique du sport et l'intensité et les préparations physiques, en fait, c'est ça
Ouais.
qui vraiment qui tue. Ça, tu peux pas le maintenir. Après que t'aies 40 ans, c'est pas possible.
Non, c'est ça, c'est faux. Comme tu dis, il faut le faire vraiment du côté martial, en fait. Vraiment apprentissage des techniques, et tout ça. Si tu rentres dans la prépa, combat régulier, sparring et tout, ça compliqué. Il y en a qui le font, hein, mais je veux dire, pour du loisir, par contre, tu peux le faire, apprentissage de la boxe thaï, de la boxe anglaise, du jiu-jitsu, tu vois, c'est
Bien sûr.
avec ces sports-là. Tu peux pas les finir. Tu vois, c'est comme je vis, enfin, c'est pas comme jeu vidéo, là, tu peux arriver à 100%, tu peux pas les finir. Donc, c'est ça qui est bien aussi.
Exactement.
Comme le mouvement, hein, tout pareil, tu peux pas tout apprendre, tu sauras jamais tout. Et c'est ça qui est bien. Tu peux tellement travailler et progresser encore. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai que les sparring, les combats et la prépa physique, c'est vrai que faut que ça soit bien fait. Sinon, au bout d'un moment, tu fatigues, quoi. Si c'est en loisir, je te parle. Si ton taf après derrière, ou que t'es entraîneur, ça, y a pas de souci. Mais si c'est en loisir, ouais, faut vraiment bien, bien l'adapter, quoi.
Justement, là, j'aimerais revenir sur un point là que tu as mentionné plusieurs fois, ce côté un peu qui t'aide à gagner en confiance en toi et en estime de soi. Je sais aussi que c'est quelque chose que tu t'implémentes dans la salle.
Ouais.
Est-ce que tu as un exemple d'un client ou d'un élève ou une histoire un peu marquante pour aider les gens justement qui auraient encore peut-être ces appréhensions face au MMA ou à la pratique des arts martiaux et des sports de combat, on va dire, des choses avec impact.
ouais
À quel point ça pourrait les aider? Tu pourrais en partager
ouais il y en a pas mal des marquants pour dire les profils, que ce soit nous on en a vu hein, chez les enfants, chez les femmes, chez les hommes, chez les jeunes, enfin voilà, nous le but c'est ça, c'est reprise de confiance en soi à travers les arts martiaux. Et on en a eu plusieurs exemples. On a eu, bah, du coup, je sais plus si t'as vu David qui avait eu un AVC, qui était joueur pro de foot, mais jeune en plus, hein, il avait 23 ans, et qui a fini, alors j'ai plus le nom, excuse-moi, hémiplégique, que c'est d'un côté, je sais plus, je crois que c'est ça. J'ai plus le terme, bon, voilà. Paralysé d'un côté.
Émis, en tout cas, c'est moitié, donc.
Ouais, donc c'est peut-être ça, voilà. Et du coup, pareil, donc bah les médecins, pareil, tu pourras pas faire de sport, marcher, nan, nan, nan. Et il est venu à la salle, il a rencontré, bah, le fameux Greg, hein, que tu connais, notre coach à la salle. et qu'il a remis voilà qu'il l'a remis d'aplomb en lui apprenant la boxe tout ça, et on a vu qu'il a eu des résultats en 4-5 mois alors que ça faisait 3 ans qu'il était chez le kiné, du coup donc reprise de confiance en lui, il s'est mis un peu à la boxe, il arrive encore à sauter, il marchait mieux, enfin voilà ce genre de choses. Donc lui c'était une belle victoire. On a eu pas mal aussi l'histoire des femmes qui ont subi des violences physiques ou du coup morales ou sexuelles qui venaient à la salle. Pareil, on pouvait à peine les toucher, elles se mettaient à pleurer, enfin suite au traumatisme et tout ça. Et à travers les sports de combat et la reprise de confiance en soi, du coup on a eu des belles histoires aussi comme ça. Et pour les enfants, pareil, des enfants un peu violents, surtout comme je t'ai parlé quand on s'était vu, tu sais, on bosse avec les jeunes de foyer, ce genre de choses. Et du coup, pareil, tu vois, apprendre à les canaliser, à tout ce qui est les valeurs, le respect, tout ça. Donc on a eu. On essaie de toucher un peu tout le monde sur ce côté-là. J'ai plein d'histoires en tête, et je pourrais pas t'en citer une précise, à part celle que j'ai dit de David, qui était de moi. Mais sinon, voilà, ouais, pour toute personne. Donc je trouve que c'est un bon. Ah, ça reste un sport de combat. Tu vois, donc quand qui dit combat, combat sur la vie de tous les jours, combat dans le sport, combat avec ta famille, enfin, tu vois ce que je veux dire, vraiment sur tous les points.
C'est quelque chose qui mériterait d'être un peu plus promu, et c'est pour ça que moi j'avais adoré ta salle, de toute façon, quand on s'était rencontrés, c'était cet aspect-là aussi. Et là, c'est un truc intéressant, que tu mentionnes, c'est ce retour au contact physique pour les femmes qui ont subi des traumatismes. Mais je pense que pour beaucoup de gens, moi, tu vois, je parle avec des potes de Paris et tout de temps en temps. Et en fait, je me rends compte qu'ils vivent dans une illusion complète de se dire, ah oui, moi, s'il m'arrive ça, je serais capable de réagir comme ça. En vrai, non, tu serais pas capable, parce que il y a une différence entre imaginer quelque chose et la réalité du combat, la réalité de la violence. Même pas nécessairement le combat professionnel dans une salle. Mais rien que la violence. Il y avait une histoire, par exemple, je sais plus c'était qui a raconté ça, qui disait, t'es assis dans l'avion, et tu sais, des fois, les gens derrière toi, ils te poussent le siège. Ouais. Et t'as des gens qui s'énervent, donc ils te poussent violemment le siège. Et en fait, ça, pour moi, c'est des petits signes, c'est c'est des aléas de la vie. Tu me dis, si tu réagis comme ça, c'est que t'as vraiment aucune notion de ce que c'est la violence. Parce que si le mec devant toi, je sais pas, c'est une ceinture noire de JJB, et que toi, t'as jamais fait de sport de combat, en fait, tu sais pas ce qui t'attend. T'es complètement à des années-lumière d'imaginer ce que l'autre personne est capable de te faire. Les dégâts physiques, émotionnels, qu'il est capable de t'infliger. Et je pense, en fait, être trop loin de ça, c'est presque comme être trop loin de la nature. T'es trop loin d'une des fonctions fondamentales de ton corps qui est d'être capable de te défendre. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup ça avec les potes qui sont restés en ville et qui font pas de sport où il y a du contact physique. Même du handball ou du basketball, c'est pas question que le combat, même si c'est vrai que le combat, c'est le plus proche de quelque chose de naturel pour moi. T'es trop loin d'imaginer ce que c'est que d'être capable d'infliger un dommage à un autre être humain. Et c'est pour ça que t'as des gens qui tétanisent et qui se bloquent quand tu les attrapes par le col, tu les attrapes par l'épaule, tu les secoues un peu. C'est quelque chose, c'est une vraie peur, une vraie crainte de l'homme moderne, parce que justement, t'es pas soumis, t'es pas régulièrement soumis à des micro-stress comme le sparring, l'entraînement de Muay Thai. C'est des toutes petites choses, mais en fait, fait régulièrement, c'est ça qui fait que tu gagnes en confiance en toi, progressivement sur le très très long terme. C'est comme l'hormèse. Tu te mets un petit stress, t'as le temps le lendemain de te reposer, tu reviens, t'es un peu plus fort que la veille. Même un micromètre plus fort, mais c'est suffisant pour qu'en fait, à l'année, ça s'accumule et que tu reprennes petit à petit confiance en toi.
On l'a perdu un petit peu, enfin, ce côté, entre guillemets, animal joué, tu vois, je sais pas, chez les félins, quand ils sont petits, ils apprennent comment? En chahutant, en jouant, en se battant. Là, nous, on le voit à la salle, on a perdu ça. C'est dans notre instinct, c'est voilà, le contact corps à corps, faire un petit peu comme j'ai la bagarre pour jouer. Ça, c'est notre instinct, on l'a perdu un petit peu. Et j'ai remarqué que, je m'exemple, on fait team building, les entreprises, séminaires de travail, tout ça, qualité de vie au travail. Et quand on a les salariés qui viennent, par exemple, avec le patron, le salarié et tout, ou même en vrai, n'importe qui, je dis ça, mais n'importe quel public vient à la salle, tu les fais mettre au sol, tu leur fais faire un petit combat. Ah voilà, 90% des gens, ils vont adorer, ils vont s'amuser, tu les fais taper dans un 5, ça va les défouler. C'est vrai que ça, c'est ce qui est pratique avec notre sport, et ce qui est pratique dans le business, on va dire aussi, sur le côté business, c'est voilà, c'est que les gens, tu les fais taper dans un PAO. Franchement, 95% des gens, je sais pas te dire 100%, ils kiffent. C'est concret, en fait. Tu vois, tu peux gueuler, c'est bien, mais le fait d'extérioriser, tu frappes, tu souffles, ça te défoule. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, voilà. Enfin, si c'est dans nos gènes, mais tu prends le sol, pareil. Le sol, tu leur fais faire des petits combats, la plupart, tu vois, ils vont apprécier. Il y a une petite partie qui vont pas aimer, parce qu'ils aiment pas le contact, parce que du coup, il y a peut-être quelque chose derrière, il y a plus longtemps, donc pourquoi ils aiment pas le contact physique, ils aiment pas trop le rapprochement, ceci, cela, mais généralement, ça, après, ça se travaille. Souvent, au début, ouais, j'aime pas le contact, pourquoi? T'aimes bien faire des câlins à ta famille, t'aimes bien ceci, cela. Là, c'est un jeu. Toi, tu vas pas avoir mal, tout ça. Et du coup, si la personne aime pas, faut creuser un petit peu. Et généralement, derrière, tu arrives à l'amener à ce qu'elle prenne du plaisir à faire, voilà, des petits combats au sol, des petits jeux. Donc, on manque de petits jeux, comme ce que tu fais sur tes stages. Les petits jeux ludiques, voilà, toucher épaule, déplacement au sol, le contact au sol, enfin, le fait de lutter. Tout ça, pour moi, ça devrait être intégré à l'école, déjà. Et voilà. On va pas prôner que notre sport, parce que du coup, voilà, il y a tous les sports sont bons. Mais celui-là, je le trouve intéressant sur plusieurs dimensions.
Quoi. Rétablir le contact, même le contact bon humain-humain, mais le contact humain-sol aussi. Quand tu vois les cours des enfants, ils attendent pas debout, ils se mettent direct par terre. Il y en a qui s'allongent, ils se mettent en tailleur. Ils aiment bien, tu sais, être par terre, crapahuter. Et nous, on perd ça. Tu prends une salle d'adulte, même moi, quand j'avais les stages dans ta salle, tu te rappelles, les gens, en fait, ils sont figés, ils sont tous contre la cage, ils sont loin, ils sont comme des, il y a tous ces blocages, en fait. Qui sont que dans leur tête, en fait, parce que moi, je suis pas là pour, tu sais, on n'est pas là pour leur faire du mal ou quelque chose. Et en fait, c'est que des blocages que tu vois. Tu sais, t'arrives un peu à lire les comportements physiques. Et les mecs, tu sais, ils se mettent de plus en plus loin. Les filles, elles se mettent d'un côté, les hommes de l'autre. Ça aussi, c'était des trucs, moi, ça m'a toujours choqué. Tu sais, intuitivement, il y a ce côté, les meufs, elles se mettent d'un côté. C'est fou, hein. Non, il y a quand même des comportements de base qui restent, tu vois. Il y a des comportements où on s'associe avec nos pères. Il y a des comportements où, quand t'es devant une figure d'autorité, tu vas toujours, tu sais, prendre un pas en arrière pour préserver ton espace à toi. Et je pense que c'est ça aussi que le MMA et même la lutte et les sports de combat très proches, ils t'aident à faire. Ils t'aident un peu à, peut-être, à élargir soit ce cercle-là d'influence que t'as, ou en tout cas élargir cette zone où tu te sens en sécurité. Comme un peu, t'es les différentes phases du combat, quand t'es loin, quand t'es proche, quand t'es au sol. Ces différentes zones que quand tu combats, t'apprends à maîtriser. Tu dis, OK, moi, je suis à l'aise de loin. Peut-être proche, je suis un peu mal à l'aise, il faut que je travaille sur ça. Et en fait, ça se traduit dans le monde réel. T'es mal à l'aise peut-être quand tu regardes quelqu'un dans les yeux. T'es comme les profs, quand ils arrivent à côté du bureau et toi, t'es en classe, t'as un petit coup de stress parce qu'en fait, il est proche de toi. Pas parce que t'as fait quelque chose de mal, généralement, même si dans ton cas, je pense que c'est nécessairement quelque chose de mal que t'as fait, mon Flo. Mais dans mon cas, à moi, c'était pas ça. C'était juste, en fait, il rentre dans ma zone, dans ma zone protectrice. J'aime pas.
Et ça, t'aimes pas trop, Je me rappelle.
Ah, il connaît.
Deux fois, j'ai voulu faire des petits parrains au sol.
Bon. Ah, moi, le sol, ça.
C'était le podcast, on fait un combat au sol, mon Slim.
J'avoue, je te dois bien un combat au sol. Tu m'as traqué pour le sol. Alors que ça s'est déverrouillé. Hein. Après, il y a eu le Brésil, il y a eu ça. Ouais, bah oui, j'ai eu le temps de commencer à travailler là-dessus. Mais ouais, moi, typiquement, le sol, ça a toujours été mon. Tu construis aussi un peu ta confiance en toi avec ton corps, comment il est. Moi, morphologiquement, mes bras, ils sont immenses. Mes jambes, elles sont immenses. C'était par rapport à mon tronc. Et donc, en fait, j'ai l'impression d'être pas protégé quand t'es trop proche. Alors que de loin, tu sais, je me dis, j'ai des fusils, quoi. C'est des snipers. Ouais, et donc, j'ai toujours été à l'aise de loin. Et c'est vrai que tu construis aussi comme des blocages mentaux par rapport, en fait, à ton corps, comment il est.
Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Voilà, les différentes distances et tout, la distance et venir rapprocher la personne, ça n'a pas encore à correct. Ouais, exactement.
Exactement. Donc, mais vas-y, je tiens. De toute façon, c'est enregistré. L'invitation est là. Je viendrai pour un bon combat au sol avec toi, mon Flo. En tout cas, c'est un bon début, là, de parler de MMA et de cette idée de confiance en soi. Toi, justement, dans cette, parce que là, avec ce que tu nous as partagé, beaucoup de gens vont dire, mais regarde, ce mec-là, il a eu on va dire pas de la chance, mais en tout cas, son parcours de vie fait qu'il est la personne qu'il est aujourd'hui. Tu vois, il a commencé très tôt, directement par l'entrepreneuriat. Il n'a pas subi le stress d'être, tu sais, un salarié. Il a fait directement des sports de combat, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à quelqu'un qui écoute ça, qui n'a pas accès à ses expériences de vie, soit qui n'a pas accès à la pratique martiale ou qui n'a pas fait, par exemple, l'entrepreneuriat ou les voyages, etc. Ouais. Quel serait pour toi le meilleur moyen de commencer un peu à s'émanciper, à s'ouvrir?
Premier truc, comme on disait, c'est la confiance en soi, mais ça, du coup, faut le travailler. Et pour moi, la première des choses, c'est de trouver quelque chose qui te passionne. Parce que moi, je suis une merguez, je suis un feignant. Tu vois, vraiment,
ça va être la citation de cet épisode. Moi, franchement, je suis une merguez, je suis un feignant.
Non, c'est ça. Je suis feignant, en fait, c'est que je suis pas manuel. Derrière les ordi, je suis actif, j'y arrive pas. Donc déjà, ça te bloque pas mal de taf. Tu vois, si t'es pas manuel et que t'arrives pas derrière un bureau, ça t'enlève quand même pas mal de choix. Donc, il a fallu trouver une solution. Et c'est vrai qu'il y a un domaine où j'étais bon, c'est le sport et c'était ma passion. Et du coup, en fait, comme je dis, une fois que t'es passionné, tu le vois pas comme du travail, en fait. Donc, certes, par contre, j'ai charbonné, hein, avant d'être en entreprise. Tu vois, j'ai fait 4 ans d'assaut. Enfin, j'ai eu des couilles comme pas, enfin, j'ai eu des soucis comme pas possible. Mais par contre, c'était une passion. C'est-à-dire que moi, je me forçais pas. Quand j'avais une merde, moi, je me suis mis dans la mentalité, c'est, dès que j'ai une merde, ça me réveille et j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc, je m'étais mis ça en tête. Dès que j'ai un souci, ah bah cool. Ça va me montrer, voilà, ça met un petit coup de boost et je vais essayer de, d'aller plus loin et de surmonter ça. Et du coup, c'est ce qui a fait que, bah, voilà, ça m'a fait réussir sur chaque souci que j'ai eu. J'ai essayé de passer outre. Et ouais. Voilà, vu que c'était une passion, bah, voilà, je me forçais pas, en fait. Ça me plaisait de le faire. Tu vois, aller démarcher pour trouver le prêt, enfin, voilà, trouver les salles. Je le faisais, tu vois, et je voyais pas ça comme un taf. Par contre, je charbonnais, hein. J'étais au taquet tout le temps, mais c'était pas un taf. Donc, forcément, moi qui suis feignant, je le voyais pas trop comme un taf. Donc, du coup, et bah, c'est passé. Donc, première direct, pour moi, c'est trouver quelque chose qui te passionne. Mais que ce soit le sport, les arts, la musique, tu vois, moi, je donne mon côté, c'est le sport. Et ça peut être sur tout et n'importe quoi. Voilà, bien de sûr. L'art, de la musique. Donc, c'est vraiment ce côté-là de passion. Parce qu'après, tu le verras pas comme un taf. Après, voilà, faut charbonner. Tu vas prendre confiance en toi en passant étape par étape. Et après, derrière, bah, voilà, une fois que tu t'es construit, on va dire, tu t'es la loi de l'attraction, comme je dis, ou une fois que tu t'es mis un truc en tête, ça va tout, tout va venir à toi. Après, pour moi, voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Hein, ça a mis, j'ai commencé tôt, certes, mais les sports de combat m'ont bien aidé hein, là-dessus à avoir cette mentalité-là. Et après, voilà, ça a mis 7 ans, tu vois, où là, du coup, là, je suis en entreprise depuis 3 ans. Mais ça, c'est pas encore pérenne, tu vois. C'est faut encore travailler. Je suis pas là à me dire bon bah c'est cool, j'ai 28 ans, je peux arrêter de bosser. Non, j'en aurai pour un petit moment. Et même si ça tourne bien, je continuerai à bosser parce que je vais faire ça et voilà. Et en deuxième point, je dirais les voyages. Enfin, sport de combat. Voilà. Et après, voilà, la passion, les sports de combat et les voyages. Parce que ça, c'est un des gros points pour moi qui a fait que j'en suis là aussi aujourd'hui. Parce que la salle que j'ai là, si je l'ai pas ramenée, voilà, j'ai pas eu tout dans ma tête, c'est que j'ai vu des choses en Australie, aux États-Unis, au Brésil, voilà, j'ai ramené pas mal de petites idées de différents voyages et ça m'a énormément aidé.
C'est quoi, là, ton plus gros voyage, là? Parlons un peu voyage, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé le sujet, là, dans le podcast, là.
Ouais, bah là, bah, tu vois, depuis que j'ai la boîte, je suis un peu le mort, là, parce qu'on peut plus trop voyager. Donc, le plus gros, celui qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est le Brésil. Parce que j'étais parti là-bas un mois m'entraîner, donc je suis parti tout seul. Je suis parti un mois m'entraîner dans une petite salle, je dormais, bah, je t'ai montré, je crois, les photos, je dormais dans le garage, c'était, ouais, vraiment à la rousse, tu vois. Personne qui parlait anglais, je parlais que portugais, du coup, un brésilien. Et, ouais, là-bas, j'ai passé un mois à m'entraîner, durement. Là, j'ai pris une claque, hein, j'ai pris une leçon de vie, et à la fin, pour finir sur un combat. Et je me rappelle le moment qui m'a marqué, c'est le jour du combat. Donc j'ai fait un mois de préparation là-bas, et le dernier week-end je combattais et je me suis retrouvé tu vois, tout seul dans les vestiaires au fin fond du Brésil avec le public, et j'étais tout seul à m'échauffer. J'étais vraiment tout seul, tu vois, solo.
Putain,
de chez solo.
C'est fou. Et
là, après ce truc-là, quand je suis venu du Brésil, ouais, ça m'a mis une claque. En revenant du Brésil, je me suis dit ok, la vie c'est ça. Tu vois, il y a pas le petit côté je suis à Tours, je suis à France, je suis bien. Non, moi j'aime bien me foutre dans le dur, tu vois. Partir solo, c'est pour ça qu'on s'est, ça a bien matché entre nous aussi, on a à peu près la même mentalité là-dessus.
Clair.
Le Brésil, ça m'a bien aidé.
Ouais. Et là, c'était où au Brésil exactement?
C'est pas le Brésil que tu vois à la plage, hein. C'était à Palmas, Palmas. Donc c'est en dessous de l'Amazonie, c'est la campagne, hein. Il y a pas la plage, il y a rien. Il faisait 33 degrés, enfin c'était un petit bled. Il y avait la plus grosse ville à côté, il y avait à peu près 100 000 habitants, mais moi où j'étais, on était 5 000, je crois, 6 000. Donc c'était un petit truc, mais bon, l'entraîneur qui m'a accueilli là-bas, enfin, il m'a pris comme son fils limite, tu vois, il m'a emmené partout. Regardez le petit français, il m'a présenté à tout le monde, j'ai fait différentes salles, j'ai tourné avec pas mal de gars, enfin, c'était grosse expérience.
Ah, j'adore. En plus, moi qui ai passé du temps là-bas, ça me rappelle des souvenirs. C'est vrai que là, si tu parles de l'Amazonie, moi j'avais beaucoup de gars, tu sais, de Manaus, la capitale, du jiu-jitsu là-bas, jiu-jitsu capoeira, c'est leur sport. Tu as 21 ans, ceinture noire, tous. Et tu dis, le niveau qu'il y a, l'humilité, la sagesse aussi, et comme tu dis, l'expérience de vie, le fait qu'ils vivent dans des conditions qui sont à des 10 000 milliers de kilomètres de nos conditions à nous. En fait, ça t'apprend. Ils t'apprennent la vie, quoi. Ils te disent, non, mais mec, toi, tu viens dans notre pays parce que t'as un visa en une minute. Nous, pour un visa, c'est un projet sur un an d'obtenir un visa pour aller aux États-Unis, ou des petites choses comme ça qui te remettent les idées au clair. Et tu dis, OK, en fait, faut que je montre que je suis en gratitude. J'ai eu de la chance d'être né dans ce pays-là et de vivre l'expérience Donc là, c'est vrai que le Brésil, ça met une grosse claque quand tu fais un peu l'effort d'aller dans des endroits un peu plus, comme tu dis, moins la plage, les hôtels et tout, et un peu plus aller au contact des gens et voir leur vie. Bon, c'est mortel. L'Australie, alors, t'as fait quoi là-bas?
Alors, l'Australie, là, c'était mon meilleur pote, il vit là-bas. Donc l'Australie, là, par contre, je me suis pas entraîné. C'est l'un des seuls voyages où je me suis pas entraîné. On a pris un van et on a fait toute la du nord jusqu'à côte est et sud-est. Quoi. Donc là, on a pris un van et voilà, on a vagabondé, on a visité et tout. Donc là, franchement, l'Australie, c'était bien cool là-dessus. La Thaïlande aussi pour l'entraînement. Bon, la Thaïlande, après, c'est royal. Hein. Pour les entraînements, c'est t'as ton petit scooter, t'as la plage, t'as tout ça. Donc non, la Thaïlande, c'est vrai. En condition, sur tous les pays que j'ai fait, ouais, quand même, la Thaïlande, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que t'as, bah, surtout à Phuket, là où t'as Tiger Muay Thai, j'ai perdu le nom, Phuket Top Team, enfin, t'as une rue, c'est la rue où c'est que la rue des sports de combat, t'as de la bouffe vegan, ici, t'as tout, cette rue, elle est magnifique. Et non, la Thaïlande, c'est vrai que pour s'entraîner, t'as du niveau, en plus, t'as tous les pays du monde presque là-bas. Enfin, t'es de combattants qui viennent s'entraîner. Et ouais, la Thaïlande, ouais. On y allait, j'y suis allé deux fois et je pense qu'on y retournera avec les gars, avec les compétiteurs là cette année.
Ah, c'est sûr.
Si c'est ouvert, si c'est possible, ouais, on va partir un petit peu là. Parce que ça fait deux ans qu'on n'a rien fait, donc là, ouais. On va voyager un petit peu avec les compétiteurs, ce qui va me permettre de revoyager déjà. Et voilà, il va de me rentraîner, d'emmener les gars à droite à gauche. Donc ça, on a hâte.
Ça, c'est mortel. Là, ça leur fait aussi une belle expérience pour les ouais. Jeunes qui n'ont pas l'occasion de voyager, de se rendre compte que à l'étranger, la pratique martiale et les sports de combat, ils sont vus d'une autre manière qu'on ouais. En a en France. Mmh. Et c'est vrai que même ça, ça te donne. Moi, je pense, j'ai jamais été autant confiant que depuis que je suis parti à l'étranger, en fait, pour voir que le monde observe des choses que toi t'aimes d'une manière différente. Et ça fait plaisir, en fait, d'être dans des endroits où ils apprécient ce que toi t'apprécies. Ouais. Là où des fois, en France, c'est un peu plus difficile. Pas pour tout, évidemment. Mais il y a certaines choses qui sont plus difficiles, c'est à communiquer, à partager. Il y a moins cet engouement par rapport à ce que tu fais. C'est vrai que ça a une influence. Comment tu te sens? Et même dans ta vision de ton futur, tu dis, ouais, mais est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse un peu plus là-dedans, vu que autour de moi, il n'y a rien, quoi. Tu sais, il n'y a pas de, on me donne pas d'aide, on s'en fout, en fait, de ce que je fais. Tu dis, OK. Et en fait, des fois, c'est juste, t'es juste dans le mauvais pays, quoi. Va chez le voisin et tu vas voir.
C'est un peu ça.
Des fois, c'est ça. Tu fais quelques heures de route, tu dis, putain, mais en fait, ici, il kiffe. Tu dis, bah oui. Alors reste là, tu vois.
Ce qui est pratique avec les sports de combat, c'est que c'est universel. Tu vas dans n'importe ouais. Quel pays du monde. Ça, c'est un des. Comme tu peux prendre le foot aussi un petit peu, ça qui est quand même pas inconnu. Mais les sports de combat, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? On a tous, depuis la nuit des temps, on s'est tapis dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends la lutte sénégalaise, tu prends, voilà, la boxe birmane, la boxe thaï. Tu vois, dans tous les pays, ce qui est bien, c'est que tu peux aller, voilà, à Cuba, travailler ta boxe anglaise, au Mexique, pareil. Tu peux aller en Thaïlande, travailler ta boxe thaï. Enfin, voilà, ce qui est pratique, ce qui est top avec ce sport-là, c'est que tu peux aller partout dans les pays du monde. T'auras forcément peut-être une discipline associée au pays ou, voilà, les sports de combat, ça, c'est pratique.
Sûr.
Au niveau culturel, c'est sûr, en plus, c'est. Moi, ce que je trouve, c'est le top du top, ce que je conseille, c'est que tu pars en voyage, tu pars t'entraîner, tu découvres la culture, t'apprends sur toi parce que tu t'entraînes avec d'autres personnes et il n'y a rien de mieux pour casser les barrières que de commencer à combattre. Hein. Nous, c'est ce qu'on dit au boulot.
Ah, c'est clair.
Avec les coachs, au moins, il n'y a pas d'embrouille parce que du coup, on se tape déjà dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, derrière, ça casse un peu des barrières. Je dirais pas que dès que tu rencontres quelqu'un, il faudrait faire salut et lui faire un sparring, ce qui serait pas mal, au moins, comme ça casse les barrières. Mais ça t'aide derrière, en plus, sur, voilà, tu découvres la culture, tu découvres les gens, enfin, voilà, tu restes humble parce que tu peux arriver, ouais, moi, je suis français, tu prends une branlée par un petit taille, tu vois, qui doit avoir 14 ans, hop, ça te remet une aussi derrière. Donc, c'est le bon compromis. Les voyages combat, comme je dis, c'est, pour ma part, j'aime beaucoup.
J'adore. On va créer ça ensemble, toi et moi, mon ouais. Flo, les voyages combat, tu vois, voyage bagarre, ça va être le ouais. nouveau vecteur de développement personnel. Mais c'est vrai que c'est un vrai point, on n'y pense pas, mais, tu vois, moi là, je reviens de Crète et la Crète, c'est l'endroit où les gens ils vont en vacances.
Ouais.
Moi, de ce que j'ai pu observer, après, c'est pas du tout une critique, c'est juste que c'est comme encore une fois, c'est un autre paradigme. C'est des gens qui vivent une autre expérience qui n'est pas la mienne. En fait, c'est les vacances. Tous les jours, ils vont à la plage, ils reviennent. Oui. Moi, ça m'angoisse. Je me dis, putain, mais là, c'est des journées de ta vie, quoi. Tu fais rien.
Parce que nous, on est speed aussi et je sais que nous, on a toujours besoin de bouger, faire des trucs. Ça, je l'ai vu. Mais je comprends un peu aussi, du coup, à certaines personnes, parce que nous, on a ce mode de vie-là, les personnes qui ont une vie de famille, qui ont trois enfants, qui sont en 35 heures, tout ce truc-là, je pense des fois, parce que nous, on est encore bien, en vrai, tu vois, on n'a pas encore d'enfants, on vit notre passion, donc je veux dire, en termes de qualité de vie, on n'est pas trop mal. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi, par exemple, de partir une semaine et rien branler, complètement relâcher, complètement, tu vois, se poser, mais nous, vu qu'on est speed, nous, on a besoin de ça. Tu vois, moi, rester allongé à la plage, ah, j'ai du mal. Je peux le faire une journée ou deux, tu vois, mais je préfère visiter, me balader. Enfin, tu vois, c'est.
Ah, c'est sûr.
Pour l'instant. Après, qui dit plus tard, hein, ça se trouve, plus tard, je serai là une semaine à l'envers, à prendre mon soleil. Mais du coup, je le vois comme ça. Et je rebondis juste là-dessus, ce que tu me disais. Tu vois, nous, on a un projet là qu'on essaie de monter avec les jeunes qu'on a de foyer là. C'était de faire en fait une sorte de voyage. Tu vois, par exemple, pas humanitaire, mais humanitaire, sportif, ce que tu veux. Par exemple, on les emmène en Thaïlande, on leur fait faire le voyage, ils découvrent la culture du pays, on les entraîne en sport de combat là-bas et ils font un petit peu d'humanitaire. Et je pense que là-dessus, un jeune, par exemple, qui est les jeunes de la mission locale ou par exemple de Montjoie, tu sais, qui ont travaillé, ça peut avoir un impact assez important si tu combines le voyage, le combat, l'humanitaire et découverte de la culture. Je pense qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, t'en reviens changé. Donc ça, c'est un des points qu'on va développer cette année-là et qu'on essaie de mettre en place. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Ça essaie de tout combiner, quoi. Ça serait une petite sorte de faire un petit condensé ce qu'on propose à la salle, mais là, de le faire à l'extérieur et avec les jeunes pour commencer. Donc ça reste un bon condensé, je pense. Ouais, ça pourrait.
Ouais, c'est mortel. T'as raison. C'est vrai que d'allier un peu ce côté voyage à y faire quelque chose, tu vois, servir. Ouais. Je pense pour des jeunes qui ont déjà une condition assez difficile, tu vois, les jeunes de foyer, etc. C'est pas. Non. Tu démarres pas avec les meilleures cartes, tu vois. Et nous, c'est vrai que des fois, on s'en rend pas compte. On a quand même grandi. On avait nos parents. On avait, tu vois, je sais pas, t'as des frères et sœurs. T'as ça. T'as quand même un cadre aussi de base où tu grandis. Des fois, c'est facile de l'oublier. Ouais. La personne que tu es aujourd'hui aussi, elle a pu se baser sur des structures fondamentales, presque primaires, tu vois, la famille, le soutien, tu vois, des choses qui sont simples et des fois, c'est facile de cracher dessus, alors qu'il y a des gens, tu vois, qui naissent, bon, ils ont pas de parents, ils sont orphelins, ils vivent de maison d'accueil en maison d'accueil, il y a des gens qui vivent dans des foyers, des gens qui perdent leurs parentaux, et ça, c'est vrai que ça a une grosse impact, et je pense que la pratique physique, le voyage, servir l'autre, c'est le moyen de regagner ça. Je pense qu'on a accès à ces choses-là si on s'en donne les moyens, c'est-à-dire que c'est difficile pour moi qu'on puisse finir seul, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où si tu fais d'efforts, tu vas pouvoir connecter avec d'autres humains, on est fait pour ça. Il suffit juste que ton mindset il change un peu et que tu dises ok, j'arrête de me morfondre, j'arrête de regarder tout ce qui va pas chez moi, et la première chose que je fais, je vais essayer d'aider quelqu'un, tu vois. Ce premier acte-là, c'est toi qui vas tendre le fil, on va dire, de la connexion, tu vois. Il suffit que l'autre personne elle l'attrape et c'est bon, en fait t'as déjà créé une connexion, même si de base t'es né, on va dire, un peu fucked up, tu vois, un peu avec rien qui va, tu vois. Et ça, c'est un beau projet là que tu développes. Moi aussi, je t'en avais parlé de toute façon, mais à très très long terme, c'est ça aussi que j'ai envie de faire avec mon académie, tu vois. C'est essayer de sensibiliser, tu vois, les parents avec les enfants, les travailler avec les enfants autistes, travailler sur ce regain de motricité, ce regain là de contact avec le sol, avec les autres partenaires de jeu, etc., pour justement ressouder ces liens, tu vois, qu'on perd, parce que des fois c'est que ça qui manque, tu vois. Il y a beaucoup de pathologies, enfin, qui peuvent se résoudre par le mouvement du corps, par de nouveau bouger, par aider l'autre, par faire des choses comme ça, tu vois. Oui. Au lieu des médocs, au lieu de, tu vois, des hôpitaux, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça, tu vois, pour essayer de réutiliser cet outil primaire fondamental qui est, créons du lien, et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller en positif, tu vois. Créer un environnement où les gens te soutiennent et chacun s'aide et s'entraide, t'apprends les uns des autres, tu vas voir que ça va te booster rapidement, tu vois. Au lieu de là, justement d'avoir.
C'est là-bas, ça sent le premier endroit où tu vas faire l'endroit où tu vas rester le plus longtemps, c'est ton corps. Hein. Donc si du coup, ton corps et ta tête, donc du coup, si derrière, comme tu dis, il faut construire les bases, hein, que ce soit sur le corps ou sur le mental, faut construire ces bases-là. Et c'est vrai que moi, j'avais oublié pendant longtemps, j'étais là, je me suis construit tout seul parce que voilà, c'est vrai que moi, on m'a aidé sur des points, mais par exemple, prendre la décision de partir combattre, de monter la salle, tout ça, je l'ai fait tout seul, j'étais là, je me suis construit tout seul. Oui et non, mais parce que du coup, j'ai repensé, mais c'est vrai que j'avais une base déjà familiale correcte. Enfin, j'ai mon père, ma mère, j'ai grandi une famille modeste, mais tu vois, enfin, j'étais pas à me plaindre. Et ça, j'avais oublié. Je me dis, c'est vrai que les jeunes qui n'ont pas eu de parents, qui ont voyagé de famille d'accueil en famille d'accueil, qui ont eu des décès, ce genre de choses, et ben mine de rien, ça t'impacte énormément avant de commencer tout ça. Donc j'ai eu cette chance où il y a eu de tout. Hein. Tout n'était pas tout rose non plus, mais voilà, je suis pas à plaindre là-dessus. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Donc les personnes qui ont cette chance-là, ils ont pas d'excuses entre guillemets pour pouvoir foncer et avancer. Il y a des personnes ils ont été orphelins, ils ont très bien réussi leur vie aussi derrière. Mais voilà, ils partent pas avec une balle dans le pied, mais un petit peu, quoi. Donc faut remettre ça aussi un peu en place. On n'est pas à plaindre. En France, on n'est pas trop à plaindre non plus en termes de sur le mode de vie, quel type de vie qu'on a. Mm-hmm. Voilà, si on était élevé, même par un parent, on a quand même quelque chose, on a quand même la chance là-dessus. On partait plutôt dans des bonnes conditions pour la plupart des gens. Il y a de tout, hein, mais ça, voilà, faut pas l'oublier, faut se dire ça aussi. On a eu cette chance-là de partir du bon pied, on va dire.
Exactement, amen à tout ce que tu dis. Moi aussi, j'ai fait un peu ce même cheminement de pensée, tu sais, à penser que tu te fais tout seul. Tu sais, moi aussi, je suis parti très tôt, les voyages, etc. Ouais, mais en fait, tu pars avec l'argent de qui, en fait? Ton premier voyage, c'était qui? Ouais, mais j'ai économisé, je travaillais tout seul, j'ai fait des petits boulots. Oui, d'accord. Mais qui t'a mis de la bouffe, en fait, pendant ces 18 premières années? C'est qui? Le toit là au-dessus de ta tête, il vient d'où? Évidemment, il ne faut pas non plus vivre dans ah, je dois rembourser tout ce qu'on m'a donné. Non,
Ouais,
ce n'est
ah
pas
oui.
ça l'idée, mais c'est reconnaître que ça a cette chance. Et je pense que ce premier pas-là, ça va être le pas justement pour créer quelque chose peut-être même de plus grand, d'oser faire plus. Il y a des fois des gens qui vont se dire, oui, mais regarde, j'ai eu de la chance, j'ai eu ça, ça, ça. Et en fait, ils vont rester bloqués dans cet état d'esprit. Ils vont se dire, donc en fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Et donc au final, bah, je vaux rien tout seul. Non, c'est pas ce qu'on te dit. C'est reconnais ce que tu as eu, sois en gratitude. Et justement, si tu veux même rendre l'appareil, fais plus, sois plus, deviens meilleur. Moi, c'est ce que je dis souvent. Par exemple, tu as les enfants des gens qui sont, je sais pas moi, qui ont beaucoup de succès, je sais pas, les acteurs, etc. Ils sont quasiment sûrs d'avoir le même succès, voire plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs parents, ils leur lèguent ces cartes de base. Donc en fait, tu es condamné à faire plus. Et je pense que c'est le cycle naturel. C'est qu'on a des enfants et on passe de génération en génération parce qu'en fait, on veut léguer bien plus que notre héritage génétique. On veut léguer aussi ce qu'on a appris de bien, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à apprendre. Et je pense que c'est ça qui, des fois, tu te dis, pourquoi on fait des enfants si c'est pas justement pour améliorer le collectif et pour qu'en fait, on passe à une étape qui est bien meilleure que la précédente et que tu vois
Exactement.
ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté héritage
Ouais,
positif.
ah bah ouais. Créer des bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Si toi tu étais une bonne personne, bah si tu peux justement bah, apprendre tout ça à tes enfants. Et comme tu as dit, c'est très bien dit, améliorer le collectif, moi je le vois aussi comme ça. C'est sûr, c'est bien, voilà, tu transmets ton nom de famille, tout ça. Mais c'est vrai que si voilà, tu as toutes ces expériences, tout ce que tu as appris, tu vois, tu es une bonne personne pour les autres, bah voilà, un enfant aussi. Pour moi, c'est comme tu dis, ça se transmet aussi comme ça. Créer d'autres bonnes personnes qui peuvent créer des bonnes personnes aussi. Le but, voilà, c'est comme tu dis,
Exactement.
améliorer le collectif. Exactement.
Ça aussi, ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec ce côté, on est tous connectés. On n'est pas vraiment seul, tu vois, et que des fois, c'est facile de trop zoomer sur sa vie à soi et son expérience de vie et se dire, ouais, mais en fait, ce qui compte, c'est que mes 90 petites années, le reste, je m'en bats les steaks. Mais non, en fait, tu fais partie d'une chaîne. Avant toi, il y a eu des milliards de personnes, et après toi, il y en aura des milliards. Et donc, dézoomer et voir toute la chaîne et te dire, ok, bah, attends, moi, là, je suis ce maillon-là, qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que, après moi, qu'est-ce qu'il y aura de mieux? Moi, c'est ce genre d'approche que j'essaye d'avoir en permanence, même là avec ce que je crée, avec l'académie et tout. C'est je me dis, ouais, ok, mais là, je pars demain. Qu'est-ce qui aura été mieux sur Terre après moi? S'il n'y a rien, c'est tragique, quoi. En fait, j'ai rien foutu. Et moi, c'est ça, c'est des pensées comme ça, des fois, qui m'obsèdent. Je me dis, putain, mais en fait, il faut que je fasse des choses, il faut que j'aide. Il faut que je m'améliore vite, comme ça, j'aide les gens à s'améliorer et qu'il y ait un truc qui se passe, quoi, qu'il y ait une vraie transmission. Comme tu disais, bien plus que simplement bah, léguer le nom, ton nom à quelqu'un. Et ce qui, c'est pas une critique, hein. C'est pas, je dis pas qu'il faut pas avoir d'enfants tant que t'as pas fait tout
Ah
ça dans ta tête. Mais
oui.
c'est vrai que c'est que tu les, t'es des enfants ou pas, tu vois. C'est, je pense que c'est comprendre qu'on est une grande famille, tu vois. C'est un peu hippie tout ça, mais on est la grande famille de l'humanité et qu'après nous, comme nous, de la même manière qu'on étudie un peu les, c'est les espèces d'humanoïdes avant nous. Eh ben, il y a des gens dans des millions d'années, ça se trouve, ils vont nous étudier, nous, tu vois. Ils vont dire, putain, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces cons-là, tu vois? Ils ont rien foutu, en fait. Ils ont tout cassé, tout détruit. Non, viens, on essaye de faire des meilleurs trucs.
Ah, mais ça, c'est ce que je me dis. On aura toujours un petit impact. Ce que je me dis, par exemple, avec la salle ou même toi avec ton académie, on aura, franchement, moi je me dis, il y aura toujours un petit impact. Même si la personne, je sais pas, sur, allez, imaginons, tu as eu 300 personnes, et bah, même si déjà tu as une ou deux personnes qui, grâce à toi, se disent, bah putain, voilà, se sont mis à fond dans le mouvement, ou moi, ont plus confiance en eux à travers un sport de combat, même si ça durait qu'une année. Bon, c'est ce côté-là, je me dis, même sur 300 personnes, s'il y en a une ou deux, ou même un peu plus, que j'espère, voilà, qui ont eu ce petit déclic-là ou qui ont eu quelque chose, après, voilà, je vais pas dire que c'est moi qui ai changé leur vie, mais au moins, si pendant un moment, j'avais pu leur apporter, où ils ont appris, parce qu'il n'y a pas que de moi, où ils ont appris quelque chose en venant à la salle, c'est ce qui me fait plaisir aussi. Le but derrière, c'est de retransmettre. Et voilà, si la personne a pu être venue même un an, elle se dit, bah putain, dans 10 ans, oui, mais je me rappelle, j'ai réussi à me dépasser à ce moment-là, ceci, cela, ça fait plaisir aussi. Le but, c'est clairement ça, même si ça durait qu'un an ou 2 ans. Du moment qu'il y a eu un petit déclic, c'est le but aussi. On fait pas ça, enfin, si on monte pas ce qu'on fait, on fait pas ça pour l'argent. Faut aussi, c'est un business. Dans tous les cas, faut que ça tourne. Mais le but,
Bien
voilà,
sûr.
je pense, des arts martiaux ou ça, on n'est pas là à vendre on n'est pas là à vendre un produit physique. Tu vois, dont on transmet, enfin, c'est transmettre du savoir. Donc,
Exact.
le but ultime, ça, voilà, c'est ça. C'est si on peut impacter les personnes, même un tout petit peu, bah voilà, c'est un peu notre but quand même. C'est notre marque en disant, bah, au moins, on a fait ça pour nous d'abord. Parce qu'avant de faire pour les autres, faut faire pour nous. On a fait pour nous d'abord. Et voilà, bah, maintenant, si on peut transmettre un petit peu aux autres et se faire kiffer en même
Amen.
temps. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est voilà, c'est un peu
Exact.
notre credo, quoi.
C'est exactement ça, quoi. C'est léguer quelque chose de plus grand que ses potes avec qui j'en parle des fois. Bah, tu sais, ils sont comme nous, ils sont aussi cosmiques. Et donc, ça leur pose pas de problème de parler de ça. Mais je me dis, mon aventure physique, elle sera utile que si il y a cette idée-là de transmission et d'impacter la vie de quelqu'un, d'aider quelqu'un, en fait, à vraiment réaliser une transformation. Mais vraiment au sens littéral, quoi. Transformation. Il y a quelque chose que tu changes. Et c'est ça, moi, en fait, le fin fond du fond de pourquoi je fais ce que je fais. Et même de pourquoi je fais tout, en fait. Pas que forcément l'académie. Là, le podcast, les voyages, te rencontrer, m'associer avec des gens, tu vois. C'est parce qu'il y a cette idée, qui est vraiment le socle. Aider les gens à se transformer.
Ouais, ce côté altruiste qu'on a un petit peu tous les deux, ou ce côté altruiste, moi je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve aussi, c'est que voilà, il y a des personnes, on est tous altruistes pour moi, ça il y a peu, enfin principalement moi, peut-être un gros connard, mais tu vois, je veux dire, on peut pas souhaiter le mal de l'autre, enfin, tu vois ce que je veux dire, on aime
Ouais.
tous, tu vois, j'ai un truc tout con, enfin tu vois, là tu vois quelqu'un dans la rue qui va tomber ou ceci cela, ça te fait du mal, tu vas aller l'aider, enfin pour moi c'est naturel, il y a pas à dire on est des sauveurs super-héros, c'est naturel, mais il y en a qui essayent de le développer un peu plus ou qui essayent de, il y a un peu ce côté-là, moi j'avais le côté, c'est en psychologie, le côté sauveur où tu veux sauver tout le monde ceci cela, je l'ai, ça tu vois, j'essaie de le, pas de le détruire mais de le casser un petit peu, me dire ah ouais, de toute façon tu vas pas sauver tout le monde, il y a pas ce côté de
Ouais, bah.
sauveur, tu peux pas sauver tout le monde et tout, il faut que tu penses à toi aussi, mais voilà, si dans mon chemin de vie je peux kiffer et aider le plus de personnes au passage, je prends. Ça m'enlève un petit peu, tu vois, mon côté égoïste, parce que le but, c'est que moi, je kiffe. On est tous un peu égoïstes, c'est logique. Mais
C'est
si dans mon
clair.
égoïsme, entre guillemets, je peux emmener un peu de personnes et aider un peu de personnes derrière, voilà, j'équilibre la balance, je me fais plaisir, j'aide un peu les autres aussi, au lieu de faire que l'égoïste tout seul et monter, voilà. Mais j'oublie pas mon côté égoïste, tu vois. Ça, c'était un truc de côté, ouais, non, faut pas. Si, si, on a tous un côté égoïste, hein, ça, on va pas se mentir. Hein. Sinon, demain, tu vois, on n'a pas de côté égoïste. Bah, demain, je quitte mon appart, je le file à quelqu'un et je dors dans la rue et je paye le loyer pour qu'il y ait quelqu'un qui soit dans mon appart. Tu vois ce que je veux dire? C'est
Bien
vraiment, tu
sûr,
pousses à
bien
l'extrême le
sûr.
truc. Donc, moi, je l'ai vu comme ça. C'est voilà, je vais kiffer ma vie, mais si voilà, je peux faire kiffer d'autres personnes au passage et voilà, apporter quelque chose de bien derrière, bah, moi, ça équilibre la balance. Tu vois, c'est mon côté, sur le côté karma, tu vois,
Ouais,
je suis
je vois
équilibre
grave ce que
altruiste.
tu veux dire là. Ouais, sur cet équilibre karmique presque.
Voilà, ouais, c'est ça.
Je peux me servir au buffet, mais aussi je donne.
Voilà, c'est ça. Ouais, exactement.
Voilà. Ça, c'est vrai que c'est important, je pense, même pour ton épanouissement et pour un peu même apprécier la vie, en fait. Apprécier la vie de plus en plus, c'est que quand tu sers les autres, quoi, et quand tu dis, OK, j'ai le droit. C'est ta permission, quoi. Ta permission de profiter à fond, c'est ça aussi, c'est de
Ouais,
donner.
c'est ça, ouais.
Ouais, je pense que ça a le mérite aussi d'être partagé un peu plus. Et des choses qui peuvent aussi être, si beaucoup de gens l'avaient, ou s'ils en avaient même une petite dose, je pense que ça aiderait déjà à fixer pas mal de choses en termes de, tu sais, gestion de stress, de gestion, tu sais, les gens qui ont des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine. Ça devrait pas exister, ce genre de choses. Justement, si tu as développé un peu cet aspect-là où tu dis, OK, en fait, moi, mon objectif, c'est je sers les autres. Grâce à moi, il y a des choses qui se passent. Il y a une amélioration. Je suis utile, je contribue. Ça, normalement, ça t'évite à vie d'avoir des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, de ce que tu veux, parce qu'en fait, tu sais que t'es utile aux autres. Et ça, je pense, c'est extrêmement important. On vit en société, on vit dans un collectif, on vit dans un groupe, que ça soit en ville, à la campagne, dans des tribus, dans des, peu importe le mode de vie, on est fait pour être, faire partie d'un tout. Déjà entre nous, et après, en dézoomant encore plus, un tout avec la nature, pour y revenir. Se donner l'occasion de donner aux gens. Je pense que ça, c'est important et ça évitera les grosses crises.
Et t'en as d'autres qui, par exemple, donnent tout et pensent plus à eux aussi. Et ça, ce que j'admire aussi, mais tu, par exemple, ceux qui font de l'humanitaire, enfin, les infirmières, voilà, t'as plein de métiers où eux donnent tout, tout, tout pour les autres. Tu vois ce que je veux
Ouais.
dire? Pour ça, des fois, je m'en veux, je me dis, je suis quand même un peu égoïste, que des fois, voilà, je veux aider les gens, non, mais je veux dire, tu vois, je veux, et j'ai bien ce côté-là, hein, tu vois, et des fois, voilà, je dois aider un pote, oh, j'ai un peu la flemme, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et il y a des personnes, ils vont tout donner, tu vois, il y a des personnes, ils vont tout donner pour les autres, que je respecte. Voilà, ceux qui bossent à la Croix-Rouge, qui font de l'humanitaire, qui font ceci, cela. Et ça, je respecte encore plus parce que, limite, ils vont passer toute leur vie à peut-être pas penser à eux, mais même si voilà, mais par contre tout donner pour les autres. Et ça je respecte parce que
Ouais.
ça je ne le fais pas encore. Je sais pas si je le ferai vraiment tout 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 donner pour les autres. Mais ce que je veux dire c'est que je respecte sur ce côté-là. Vraiment il y a des
Ouais.
personnes ils vont tout miser. Par exemple tous ceux qui sont en famille d'accueil par exemple. Enfin les parents qui sont en famille d'accueil qui vont accepter les enfants genre de choses. C'est quand même quelque chose de pas de lourd. Enfin si quand même émotionnellement c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà tout donner pour une personne qui vont pas connaître l'humanitaire. Tu vois ces personnes qui vont partir pendant 6 mois et tout donner pour les autres et s'oublier. Enfin ça tu vois ça je respecte aussi énormément. Donc
Ouais.
C'est pour ça pour me dire, j'aide les gens, mais il ne faut pas trop que je m'enflamme non plus à me dire, hey, je suis de tout le monde. Il y a plus haut, il y a plus bas, mais voilà. Il faut juste trouver, par contre, chacun doit trouver son équilibre, ce qui lui convient. Il n'y a pas de normes, hein. Il faut aider tant de personnes par jour au machin. Il faut juste trouver son petit équilibre. Tant que, voilà, que c'est cohérent derrière, après, voilà, tant que tu es droit avec toi, moi, c'est ce qui me va. Quoi.
Amen, amen. Ça, c'est beau. Ça, ça mérite d'être partagé.
Tu veux enregistrer celle-là?
Je l'ai enregistré, je la mettrai dans la preview de l'épisode.
Avec Merguez.
Avec Merguez à côté. Soyez altruiste, mais moi je suis Merguez, je suis un fainéant. Je pense que les deux, elles définissent bien ton personnage, mon Flo. Non, bah écoute, on a fait un bon tour d'horizon là sur cet aspect-là. Vivre mieux ensemble et ça me plaît beaucoup. Et j'ai envie de te propulser pour aller encore plus haut. On a fait le corps en premier, on a fait l'esprit. Maintenant, on va aller à la dernière dimension, on va aller vers la verticalité, vers le cœur. Et on va parler un peu d'expérience plus cosmique, parce que tu n'en es pas arrivé à là, simplement avec la bagarre, avec le Brésil, avec la Thaïlande. Raconte-nous un peu, mon Flo, toi un peu ta relation un peu avec le, pas l'au-delà, mais avec l'intangible, avec le spirituel, avec le cosmique, parce que je sais que tu as des belles expériences, si tu veux les partager, mais en tout cas une approche, une conscience déjà, parlons de ça, tu vois, tu as une conscience que tu le mentionnais tout à l'heure avec la loi de l'attraction. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres philosophies ou bien d'autres outils comme celui-là?
Ouais, moi ce qui m'a vraiment marqué, à qui je crois à fond, c'est loi de l'attraction et conditionnement. Donc loi de l'attraction, c'est voilà, c'est un peu lié aussi avec le conditionnement, c'est-à-dire je me fixe un objectif. Ouais. Par exemple, voilà, je me conditionne parce que le subconscient est pareil, beaucoup plus puissant que le conscient. C'est-à-dire que si je me fixe à, je sais pas, je vais trouver une salle ou voilà, je me fixe un objectif. Si je me conditionne à ça tous les jours, je sais qu'inconsciemment tous les choix que je vais faire ou même les discussions que je vais avoir, ça va être orienté un petit peu là-dessus. Ce que je fais un truc tout con, c'est genre tous les 2 ans, 3 ans, je suis dans la douche et je me projette ce que je ferai dans 2 ans ou dans 1 an. Et là, ça fait 7 ans en fait, et bah que ça s'accomplit. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, je dis ouais bah dans 3 ans j'aurai ça et je l'ai eu. Et là, dans 2 ans j'aurai ça et je l'ai eu. Et pour l'instant, tout ce que je me mets en tête, pour l'instant je l'ai. Je dis bien pour l'instant parce que là ça fonctionne, ça roule. Après je charbonne pour, mais j'ai compris la méthode de voilà, je me suis mis ça en tête, je me conditionne là-dessus et après la loi de l'attraction vient où bah si je me suis conditionné là-dessus, voilà, tout va être relié entre guillemets, toutes les discussions que je vais avoir, les pensées que je vais avoir vont m'amener sur ça et pour moi ça va être naturel. Je vais me dire si je veux réussir, eh ben je réussirai dans tous les cas. En tous les cas, tu pourras toujours réussir. Demain je te dis je vais être astronaute, à moins que j'ai un souci physique, je pourrais y arriver en soi. T'es d'accord, tu peux tout faire. Je passe des journées à plancher sur le truc, je passe les tests, je passe machin. Pour moi, on peut tout faire. Et c'est ce côté-là. Et une fois que tu l'as compris, ça, bah après, pas ça roule tout seul, parce qu'il faut quand même travailler. Mais voilà, une fois que tu as réussi à capter ça, et que ça a marché sur plusieurs années, ce qui est le cas, bah moi, j'ai plus de limites, entre guillemets. Demain, là, tu vois, là, sur l'avenir, je sais que je vais monter d'autres salles, voilà, d'autres salles de développement personnel, même en France et tout. Et là, je suis arrivé à un point où c'est pas prétentieux, mais un point où je me dis, voilà, est-ce que je veux vraiment tout développer à fond? Je sais comment gérer mon avenir, en fait. Plus tard, là, je suis en train de poser la question, voilà, est-ce que je vais avoir plein de salles, développer vraiment tout ça, aider beaucoup de personnes, kiffer et tout, que ça tourne aussi bien financièrement et tout bordel. Et là, je suis en train de poser la question, est-ce que je veux tout ce stress-là aussi derrière? Tu vois, parce que c'est sûr, là, je vais pouvoir péter parce que j'ai la salle, j'ai déjà fait pas le plus gros, mais une grosse partie déjà, donc il me restera, entre guillemets, juste à dupliquer un petit peu partout. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux tout ce stress? Est-ce que je veux gérer? Est-ce que je veux me lever le matin, penser qu'au boulot, qu'à ceci, qu'à cela? Donc là, je suis un peu dans le schéma de, voilà, plus tard, comment je verrai ma vie de famille, ma vie de tout ça? Est-ce que je vais continuer, voilà, à avoir une vie de famille? Parce que c'est quand même quelque chose après derrière, hein, que je souhaite. Mais c'est quand même, c'est un gros boulot en soi aussi. Est-ce que, voilà, je vais vouloir, être un grand patron et gérer plein de salles? Ou alors avoir 2-3 salles et, faire un petit peu moins, peut-être gagner un peu moins, mais avoir plus du temps pour moi, pour ma famille, pour tout ça. Donc on va dire que dans l'avenir, je pourrais te dire, dans 3-4 ans, je sais où je serai où j'en suis. Et, voilà, je verrai ce que je peux faire. Après, il y aura toujours, on peut toujours avoir des trucs. Hein. Là, je te dis, je me projette un truc tout con, tu sais, un accident, une faillite, un Covid, tu vois.
Bien sûr.
Là, je me suis
projeté. Un Covid.
Tu vois, je m'y attendais pas. Ça, c'est un des trucs. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est vrai que c'était pas prévu dans les plans, ça. Après, tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu t'adaptes, le maître mot, c'est caméléon, tu vois, c'est l'adaptation. Il y a eu une couille. Moi, je le prends, tu sais, mine de rien, le Covid. Enfin, c'est pas dans mon schéma là sur le business et tout, je le prends positivement. Même si c'est pas bien ce qui arrive, tu vois, enfin, on peut pas être pour, mais je veux dire, si tu prends les situations qui arrivent positivement, t'as tout gagné. T'as tout gagné, parce que derrière, tu vas en ressortir plus fort. Il y a que des expériences. Tu vois, tu peux, comme on dit, c'est soit tu gagnes, soit t'apprends. C'est con, mais pour moi, c'est la base. C'est-à-dire, même si voilà, quand tu perds un combat, bah, t'apprends forcément quelque chose. Quand tu tentes quelque chose, ça foire, c'est pas grave, t'auras appris derrière, tu feras mieux derrière. Et une fois que tu t'es buté, et que tu y vas, bah derrière, après, tu surmontes les épreuves petit à petit, et tu pourras toujours remonter. Même si, voilà, faut batailler, je dis pas que c'est facile, mais c'est comme ça, moi, que je travaille. Et la partie que tu attends, je sais bien, ce qui a peu aidé, moi, il y a un peu une partie mystique, on va dire, en termes de drogue, bon, voilà, on va être clair.
Avant que tu abordes ce merveilleux sujet, je veux rebondir rapidement là sur la loi de l'attraction pour apporter une clarification, parce que moi je te connais et je sais que ce que tu impliques ou ce que tu sous-entends, pardon, c'est ça le mot que je cherchais, ce que tu sous-entends, c'est pas justement une croyance aveugle dans une visualisation et dans un rêve. Non, derrière il y a des vraies actions quotidiennes, il y a du vrai travail, mais c'est vrai que se projeter, pour beaucoup, ça peut être synonyme d'anxiété. C'est imaginer un avenir et donc ça les angoisse. C'est-à-dire, oui, mais attends, mais est-ce que je serai là? Est-ce que j'aurai la promotion? Est-ce que, et si? C'est le monde des et si. Toi, ce que je pense, tu partages ici, et ce que moi aussi, je serais d'avis justement de communiquer, c'est cette idée de, si je me fixe un objectif, j'essaye, par cet outil mental, que ça soit la visualisation ou ce conditionnement-là, justement, de programmer mon cerveau pour qu'il puisse m'aider à accomplir ce résultat-là. C'est-à-dire que, comme tu disais, tu visualises ça et donc après, toutes les conversations que tu as, elles t'amènent à ce sujet. Tu marches dans la rue, tu vois quelque chose, c'est une idée pour ce projet-là, etc., etc. Et ce truc-là, ça vient de quoi? C'est pas quelque chose qui n'est pas accessible et que certaines personnes ont et d'autres pas. Non, c'est parce qu'en fait, il y a une vraie programmation neuronale. On a un réflexe dans le cerveau qui nous fait porter notre attention sur certains éléments.
C'est exactement ça.
Ce réflexe-là, on peut le manipuler, on peut le contrôler. C'est-à-dire que si t'es obsédé par une idée, par une pratique, par peu importe, tu vas voir que tu vas te balader dans la rue, tu vas être au milieu d'une foule de 5000 personnes. Le seul mot que tu vas entendre de quelqu'un, c'est ce mot-là. Tu vas entendre MMA. C'est comme nous, quand on se balade, on est au café. Il suffit qu'il y ait un gars, mais même au café d'en face, qui dise Muay Thai, je vais me retourner parce que je suis tellement dedans, par exemple, qu'en fait, c'est des trucs tu captes. Et pourquoi tu captes? C'est parce que pour vivre, en fait, notre cerveau, il filtre énormément d'informations. Si on était conscient de tout ce qui se passe autour de nous, on pèterait un câble. Sensation du vent sur la peau, les yeux qui voient tout ça, les couleurs, on serait fou. Et donc, en fait, notre cerveau, il nous protège. Il filtre un maximum les informations et donc, en fait, on voit rien du tout. Mais justement, sur cette petite lentille à laquelle on a accès, comme tu disais, si tu te concentres, tu te focalises sur un objectif, un projet, une idée, même sur quelqu'un au final, sur plein de choses, ton cerveau, il va filtrer les informations, les couleurs que tu vas le voir, les restaurants, les idées, les mots, les langues. Et en fait, tout ça, ça va attirer, en fait, et c'est ça, je pense, qu'on peut appeler cette loi de l'attraction, même s'il y a un peu la partie mystique aussi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise, et je pense que toi aussi, t'es pareil là-dessus. C'est cette idée d'hyper-focalité. Je veux que mon cerveau devienne une machine à filtrer les informations pour que, peu importe où je suis, il me donne l'information dont j'ai besoin pour mon objectif. Je peux être au fin fond de la Pampa au Brésil, il va me donner l'information qui, dans 2 ans, je vais créer la salle, et boum, ça va me revenir. Ce souvenir, il va me revenir. Et boum, je vais avoir cette idée-là. Et c'est ça qui est ouf là-dedans, et c'est pour ça que cet outil-là, il est très très puissant et ça t'évite en fait de vagabonder l'esprit béat comme ça et de...
Quand t'as un objectif, et du coup, bah, on revient là-dessus, quand t'as un objectif et que t'es passionné. C'est que moi, j'étais passionné, du coup, c'était naturel, entre guillemets. Par contre, c'est une surcharge aussi mentale aussi derrière. C'est que là, on donne les bons côtés et tout, mais derrière, voilà, moi, c'est la salle, je rentre le soir, j'y pense, je suis en vacances, maintenant, j'y pense plus. Ça, c'était un long travail et je suis content de moi, j'arrive à plus y penser, couper le téléphone, même si des fois, j'ai des appels, à faire rien me débrouiller, mais c'est quand même... Après, c'est une surcharge mentale aussi. C'est voilà, on a notre liberté, mais derrière, il y a quand même une surcharge mentale là-dessus qui est à gérer et qui est importante. Je prends l'exemple, tu vois, Greg ou les autres... Enfin, par exemple, ouais, je donne Greg qui est salarié à la salle. Lui, par exemple, il vient à la salle, il donne ses cours, voilà, il kiffe et tout. Il rentre chez lui, boum, il n'a pas à savoir comment la salle va gérer, s'il faut payer les loyers, s'il faut ceci, s'il faut cela. Donc, la liberté qu'on a de pouvoir, pas dire se lever à l'heure qu'on veut, mais voilà, travailler sur nos horaires, pouvoir partir en vacances à peu près quand on veut, Ce côté-là, par contre, il va se répercuter sur la surcharge mentale qui fait que voilà, tu as quand même derrière, le soir tu vas y penser, le matin tu vas y penser, tu vas restreindre. Ouais. Donc voilà, il y a des bons côtés, on peut les dire, hein, d'être à son compte. Il y a aussi les mauvais côtés derrière. La liberté, en fait, ça se paye. On va dire que tu vois, cette liberté-là de tes mouvements, de ne pas avoir de planning, de ne pas avoir un patron au-dessus, ça se paye sur d'autres points. Donc après, c'est à toi de voir, est-ce que tu arrives à gérer cette surcharge-là, cette charge-là même, ou non. Et ça, moi, ça a été difficile. Hein. Il y a des moments, ouais, c'est même encore aujourd'hui. Hein, là, j'arrive à vraiment à essayer de cadrer le truc sur ce côté-là. Mais oui, c'est l'un des pas des mauvais côtés. Mais c'est un des côtés qui, ouais, pour moi, c'est costaud quand même. Faut des fois arriver à
tout. Ouais, faut s'accrocher. Ouais.
Ah, tu vis tellement de ça que bah, tu y penses tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu y penses tout le temps. Tu es tout le temps à fond là-dessus. Tu es à fond ton cerveau et ton temps. Donc, avec la méditation, avec d'autres techniques, voilà, il y a des moyens justement de travailler ça pour pouvoir rester apaisé et pas y penser à ces moments-là. Et ça vient avec les années aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait, j'ai 28 ans. Je reste encore jeune là-dessus, mais ça fait 7 ans. Je sais que ça va venir par la suite. Et ça, j'essaie vraiment de le travailler à des moments, me dire, je coupe tout, j'y pense pas. Et à des moments, vraiment, je bosse. Et ça, j'y travaille parce que je peux encore rôder là-dessus.
Ouais, non mais mec, tu parles un collègue. c'est pareil, hein, c'est moi aussi, ça a été un cheminement. Là, je suis à une phase où je suis beaucoup plus serein, mais mec, il y a des années, c'était pire. Après, comme tu le sais aussi, pour faire le parallèle aussi avec les arts martiaux, c'est ça aussi, et les sports de combat et la compétition, c'est que t'as besoin de cet esprit-là pour faire ça aussi. C'est-à-dire que moi, je dirais pas que les sports de combat, c'est pour tout le monde. La pratique, les arts martiaux, oui, mais faire un sport de combat, de la manière que moi je le mettrais vraiment au même niveau, même catégorie que l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, ouais. C'est mon avis personnel, c'est pas pour tout le monde, parce que comme tu dis, il y a une charge qui vient avec, et cette charge là c'est pas qu'on n'est pas tous équipés pour la surmonter, mais on n'est pas tous, on n'a pas ces cartes en fait en main, et tous on les développe pas. On a un, comme tu dis, on n'a pas de limite, tu vois, on a un potentiel, pour moi, je sais, qui est illimité, qui est infini. On peut vraiment se passionner de tout ce qu'on a envie de se passionner, de tenter tout ce qu'on a envie de tenter. Ça, c'est vrai. J'ai aucun doute là-dessus. En revanche, il y a des choses, évidemment, on a certaines prédispositions, on a des choses sur lesquelles on va avoir plus d'aisance, etc. Et aussi, en fait, l'expérience de vie qu'on a, elle nous conditionne. Malgré tous les efforts qu'on peut faire pour atténuer certains conditionnements, d'autres qu'on essaie de retirer, il y en a aussi beaucoup qui vont nous conditionner, qui vont rester très forts. Et justement, si très tôt, tu as des expériences de vie, celles-ci, elles vont être encore marquantes. Moi, je sais que l'entrepreneuriat, c'est venu du fait que très, très tôt, j'ai fait de la compétition. Il n'y a pas d'autre chose. Ouais. J'ai aussi, dans un environnement autour de moi, où il n'y a eu que des gens qui charbonnent. Il n'y a pas de repos. Il n'y avait que je charbonne plus. J'ai grandi dans un environnement, c'était la méritocratie. Tu as ce que tu mérites, de bien et de mal. C'est-à-dire que moi, quand j'avais un truc de mal, on me disait pas, ouais, non, bah, t'inquiète, ça ira mieux. Non, on disait, c'est bien fait. Voilà, t'as mérité ça. Apprends maintenant. Et moi, ça a jamais été cruel ou ça a jamais été méchant. Ça a été, ouais, c'est véridique, en fait. J'ai ce que je mérite. J'ai fait le con, j'ai ça. Bah, voilà. J'arrête de faire le con. OK, bah, super. On passe à autre chose. Il y a ces expériences-là qui vont aussi t'aider à, qui vont en aider certains à pouvoir assumer après le, comme tu disais, le stress, même pour certains, la dépression aussi qui vient avec de, tu sais, d'être obsédé, quoi. Tu vois, d'avoir des trucs qui tournent en permanence dans ta tête. Et comme tu le sais, par exemple, la vie aussi de famille, la vie avec les proches, la vie avec, avec les partenaires. C'est compliqué, hein, parce que les gens, ils le ressentent, tout ça. Tu le ressens quand t'es pas présent et quand t'as du mal à décrocher et quand, tu vois. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est des choses qu'on, peut-être, les gens en entendent moins, et je pense que c'est aussi à comprendre et à, comme tu disais, le retour, en fait, à soi, à qu'est-ce que t'aimes, toi, en fait. Comment, toi, t'as envie de vivre. Faut pas se laisser un peu berner par, oh, j'ai lu un bouquin sur l'entrepreneuriat, le mec, il a une vie de ouf, il est en Thaïlande et il vit avec son ordi. Ouais, d'accord. Mais ce mec-là, tu connais pas sa vie, en fait. Si t'as trouvé pour toi, tu vas détester ce truc-là, d'être 10 heures devant un écran bleu, c'est pas pour tout le monde, quoi. Ouais. Ça, c'est important, je pense, et avec ce côté, essayer d'allier les deux. Toi, ce que t'aimes, comment toi, t'as envie de vivre, définis ton style de vie, et après, utiliser des outils comme la méditation un peu pour l'apaisement, la loi de l'attraction pour un peu le boost et la productivité et y aller et foncer. Et après, voir si ça te convient, quoi. On n'est pas tous faits pour être médaillé d'or aux Jeux Olympiques. On n'est pas tous faits pour être entrepreneur. On n'est pas tous faits pour être combattant. On n'est pas tous faits pour être peintre.
Et ouais, comme aussi quand t'as une vie de famille, tu vois, je prends l'exemple là, ça que je me verrais même, enfin, je serais pas si je me serais vu me lancer ma boîte et tout, alors que j'ai un enfant, j'ai une femme, j'ai tout ça. Ça c'est quand même, voilà, ça reste quand même costaud. C'est pour ça que moi, j'essaye de le faire dans l'ordre, c'est-à-dire une fois que la boîte est posée, j'essaye de tenter un vie de famille ou autre. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même des prédispositions, des conditions. C'est vrai que quand t'es tout seul pour te lancer, c'est plus pratique. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir le soutien, voilà, de ta femme, tout ça, c'est, tout est possible. Mais je trouve que c'est quand même un peu plus facile, t'as moins, niveau charge mentale, voilà, t'es plus, tu peux être plus focus là-dessus, t'es tout seul, exact. Tu peux construire ton petit truc, ça aide. Tout est possible, hein. Mais c'est vrai que pour moi, je me serais pas vu, je pense que j'aurais pas eu les capacités. Comme je te dis, toi, t'es un gros, gros bosseur. Ça, c'est le cas. Je te rappelle quand tu venais, hein, dès le matin, tu bossais et tout là-dessus, t'es un acharné de travail. Moi, je suis un peu plus feignant là-dessus. Mais j'aimerais, hein, tu vois, bosser un peu plus à des moments, être un peu plus, tu vois, ordonné, bosser. J'ai encore un peu de mal, tu vois. Je reste encore un peu feignant sur des trucs, sur certains points. J'ai des points où je vais être bon, d'autres non. Mais, ça joue, tu vois, ça joue quand même. C'est pour dire aux gens, c'est, ouais, moi, je suis pas trop ordonné. J'ai du mal à me lancer, à vraiment bosser. Des fois, même si c'est ma passion, des fois, ça me saoule. Je fais ceci, cela. Mais voilà. Quand faut le faire. À des moments quand t'as plus le choix, tu vois. Moi, je vais attendre le dernier moment. Là, je vais taffer quand même dessus. Mais tout, voilà, tout est réalisable, en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Toi, t'es un bosseur acharné qui réussit. Moi, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors que je suis pas un bosseur acharné, mais je l'ai fait sur d'autres, tu vois, sur d'autres parties.
Ouais.
Pas vraiment de
cahier. Pas vraiment de formule.
Ouais, non, c'est clair. Non, c'est ça. C'est tant que toi, après, d'ailleurs, tu trouves ton petit cheminement et tout. Là, derrière.
Et puis après, comme tu disais, moi, il y a des choses que là, je commence à expérimenter dans mon aventure, là, avec l'académie, que toi, t'as déjà déverrouillé dans ton chemin de vie il y a des années. C'est déléguer, savoir t'entourer, savoir rassembler les gens, savoir mener. C'est des qualités que moi, j'essaye, là, que je commence à peine à effleurer. Et c'est des trucs, justement, qui vont pas de pair avec être un acharné et un obsédé et être seul. Ça va de pair avec autre chose. Eh oui, ça va de pair avec créer un environnement où tout le monde se sent bien. Ça va de pair avec ouvrir son cœur plus, ça va de pair avec partager. C'est des choses qui, quand t'es un mec solo et tu te butes, t'as d'autres qualités, mais t'as aussi d'autres problèmes prêts à gérer, surtout dans d'autres phases, en fait. Au début, c'est bien, je pense. À commencer, c'est bien quand t'es déter, en fait. Tu vois, moi, j'ai toujours été comme ça. Après, tu m'as vu. Mais après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une phase où t'as besoin de t'étendre. Et pour t'étendre, on en revient au sujet de tout à l'heure. On est des êtres sociaux. On a besoin du collectif. On a besoin de l'aide. On a besoin des gens. On a besoin de faire des équipes.
Faut, comme tu dis, faut bosser avec les autres, faut faire en fonction des autres et tout. C'est moi, c'est de toute façon, c'est le plus dur, hein, dans l'entrepreneuriat. Enfin, pour moi, dans la boîte, c'est le social, hein, c'est gérer l'humain. C'est le truc le plus pas casse-couille, mais qui prend. Ensuite, tu vois, tu dois gérer beaucoup, surtout les sports de combat. Tu dois gérer des personnes avec des égos, pas des égos surdimensionnés, hein, mais des égos assez forts. Parce que les sports de combat, c'est ça, les compétiteurs, pareil. Donc voilà, tu dois gérer un petit peu tout ça. Surtout que moi, c'est des personnes qui sont plus âgées que moi. Forcément, derrière, tu vois, quand t'es un petit jeune, moi, je suis pas fait pour dire toi, tu fais ça. Donc j'arrive à peu près à bien orienter le truc, mais sans, faut pas se trop écraser derrière. Faut pas que je fasse
exactement.
Trop. Parce que, comme je dis, c'est moi, je serais pas trop, entre guillemets, salarié d'une boîte. Les salariés, je les connais pas plus que ça et tout. Bah, je leur dirais, entre guillemets, comme un con, je suis le patron, tu fais ça, et puis voilà, t'as rien à me dire. Ça serait plus facile. Après, l'ambiance serait pas la même. Là, ceux qui bossent à la salle, c'est des potes, c'est des amis, c'est des personnes qui ont à peu près la même vision. Je prends l'exemple de Fabien, pour moi, qui a exactement la même vision que moi là-dessus sur les arts martiaux, l'entrepreneuriat, le tout ça. Donc, tu vois, c'est ça qui est beau aussi. Tu rencontres des personnes qui sont vraiment comme toi. Mais voilà, après, à gérer, c'est pareil. On est potes. Je gère la salle. C'est pas, il y a une partie, c'est mes salariés. D'autres, c'est des indépendants qui bossent. Donc, forcément, je dois leur donner les ordres parce que c'est la salle. Mais je suis pas non plus leur patron. Bah, tu vois, il y a un petit truc à gérer aussi derrière. Après, comme je vois la salle, c'est un bateau. Tu vois, je suis le capitaine du bateau. Chacun a sa place. Et chaque place est importante. Moi, je suis juste là pour driver et diriger. Parce que j'aurais été entraîneur dans une autre salle, bah, il y aurait un patron, je l'aurais écouté, parce que c'est la sienne, tu vois, c'est lui qui dirige. Donc, je leur dis juste ça, c'est juste, je dirige, les gars, je vous dis comment faire, et voilà, je vous laisserai vos libertés. Tant que c'est cohérent avec toute l'équipe, il n'y a pas de souci derrière, je vais pas vous casser les couilles. Vous venez faire un taf, ce qui est, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils viennent au boulot, ils sont contents de venir au boulot. Ça, déjà, tu vois, c'est un gros point, c'est que, t'es coach, tu viens entraîner à la salle, si tu fais ça, c'est parce que tu kiffes. Et
c'est clair.
Malheureusement, il y a pas beaucoup de personnes qui le matin vont au boulot et se disent putain, je suis content de faire ça.
C'est clair.
Il n'y en a pas assez pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas assez. Il en faudrait plus, même. Un peu plus. Mais ça, c'est déjà un bon point, tu vois, derrière. Quand tu bosses avec des gens comme ça, dans une ambiance où, tout le monde est content d'aller bosser. Enfin, tu vois tes potes, c'est des collègues. Ça, c'est un. Tu peux te bagarrer. Il y a une bonne ambiance. Et tu rencontres des gens aussi, c'est ça. C'est que les adhérents, tu rencontres des adhérents réguliers avec des histoires différentes. Ouais. Tu sais, niveau social, une salle de MMA, c'est ouf. Tous les jours, tu rencontres des gens différents. Moi qui adore le social, c'est magique. Tu rencontres des histoires de ouf. C'est incroyable là-dessus, sur ce côté-là.
Tu donnes envie d'avoir un collectif, là, d'avoir une équipe là, avec laquelle partager tous ces bons moments. C'est vrai que c'est une autre version de l'entrepreneuriat dont on parle peu, en tout cas maintenant, tu vois, évidemment. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est les trucs physiques, les trucs où il y a des gens, les trucs où, ouais, il y a une équipe où tu te sens appartenir à un groupe et tu sens qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi et tu, comme tu dis, tu te lèves le matin, t'as la banane, t'as envie d'y aller et en plus, t'es connecté, quoi, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton cœur, t'écoutes les gens, tu vois, il y a tous ces aspects-là, tu travailles sur tous les aspects. Là, je pense au bon Fabien. Fabien, il se lève, il va mettre ses pas hauts, il va mettre des coups de pied dans des cuisses,
Ah
quoi.
bah
Je me
oui,
dis, quel est
ah
ce
oui.
métier-là?
Ah oui, bah
C'est la vie.
oui. Ah
C'est la vie.
oui. Non, non,
Tu te lèves, tu mets des low kicks, tu prends des. Non mais attends, c'est la life, ce truc.
vrai que ouais. Non, non, c'est vrai que moi, je changerais pas de taf. Hein. Là, si tu me demandes qu'est-ce que je vais faire dans la vie plus tard, je dis ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est non, je vais rester là-dessus. Pour l'instant, ça se trouve plus tard, je voudrais rester sur mais pour l'instant, je veux faire ça. C'est un kiff total. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est un kiff total sur ce taf-là, quoi.
Transition parfaite quand on parle un peu de ces choses-là un peu cosmiques. Revenons au mystique, hein, mon Flo, et abordons un peu ce prochain sujet. Un outil, comment dire? En tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer, tu vois, qui est peut-être peu partagé dans la francophonie ou en France, etc. Et pourtant, comme tu le sais, tu voyages un peu, c'est dans toutes les cultures. Un autre outil assez puissant de reconnexion à la nature, de peut-être aussi un peu accès à ce côté mystique, parler de loi d'attraction, de choses qui sont pas trop dans nos contrôles physiques, matériels, et qui pourtant qui sont présentes, qu'on sent tous, que ça soit de l'énergie, que ça soit une influence, que ça soit des intentions. Tout ça, c'est des mots qu'on emploie, on entend de plus en plus souvent, de mindfulness, d'être conscient, d'être aware, d'être présent. Et pourtant, pour beaucoup de gens, ça reste encore des concepts qui sont comme la brume, qu'ils n'arrivent pas à attraper et à vraiment concevoir. Et il y a des outils justement qui nous permettent peut-être d'accéder à tout ça. Et voilà, dans cette idée d'utiliser différentes plateformes de développement personnel, que ce soit la pratique martiale, les voyages, l'entrepreneuriat. Toi, je sais que tu as été un explorateur. Et donc, il y a ce dernier outil. Est-ce que tu peux nous en parler, mon Flo?
Ouais, bah, je reviens sur ce que tu as dit, c'est quoi ouais, pour moi, enfin, il n'y a pas de réalité. Enfin, presque, tu as celle du moment présent qu'on dit souvent, c'est voilà, je suis présent, je suis là, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et après, ce que tu as dans tes pensées, c'est-à-dire si tu es toujours là à penser soit au futur, soit au passé, soit machin. Et je l'ai des fois souvent ça, tu vois, tout le temps à penser dans la salle, ce qui va venir, machin, bah, je suis pas vraiment là. Tu vois, c'est pour moi, comme je dis, il y a deux réalités. C'est voilà, celle vraiment où tu es présent, tu regardes ce qu'il y a autour de toi et tout. Et la pensée toujours, t'as, bah voilà, comment va se dérouler ça, comment ceci, comment cela, c'est que des projections sur l'avenir. Et ça, faut arriver vraiment à faire le petit lien, le petit chemin entre voilà, il y a des moments où faut vraiment que je sois concentré là, que je sois pas toujours dans mes pensées. Et à d'autres moments, voilà, je suis posé, j'ai pensé à savoir comment ça se passe, comment ça va se dérouler. Et c'est ce truc-là qui est assez.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi, je t'interromps, ce que tu disais tout à l'heure avec ce flux de pensée en fait permanente et que c'est pas tout beau, tout rose de gérer des choses et que tu peux avoir aussi certaines tendances que moi je partage aussi à partir quoi et en fait ça t'emprisonne dans un monde qui n'est pas.
Ouais, bah c'est exactement ça, voilà. Et ça, pour moi, c'est une des parties, faut y penser, faut travailler un peu dessus, parce que sinon, tu vis plus le moment, en fait, où t'es. Donc, moi, ça m'a aidé, enfin, j'ai essayé de travailler un petit peu là-dessus. Bah, ce qui m'a aidé, comme je t'avais parlé, c'était, j'aime bien, voilà, tu sais, je suis un lifer, comme je dis, j'aime tout tenter, les voyages, voilà, les combats, les machins, t'as compris que, voilà, je fais pas dans la demi-mesure, j'aime bien un peu tout tenter, hein. Pour moi, la vie, c'est, enfin, comme un jeu, tu vois, ça serait con de gâcher certaines expériences. Et comme bah sur un voyage que j'avais fait justement où j'étais parti tout seul en moto là deux tours jusqu'au Portugal, j'avais rencontré des gars et qui m'ont dit ouais bah il y a une soirée, enfin il y a un festival psytrance au fin fond du Portugal dans la forêt et tout. Et je me suis dit, j'avais rien de prévu, tu vois, le lendemain je pouvais aller où je voulais, j'étais avec la moto, je m'en foutais. Et j'ai dit bon vas-y bah je vais y aller, donc bah je débarque c'est Festoche psytrance, tu vois, donc j'avais déjà fait un peu de festoche électro et tout, mais je connaissais pas trop le domaine psytrance, tu vois. Donc je l'ai fait, j'arrive, c'était déjà j'arrive en moto en festival, donc chose que personne ne fait. Ils ont dit mais qu'est-ce que tu prends les sites, parce que là, généralement c'était les mecs en tente, t'avais les mecs en camion, tu sais les mecs qui sont avec leur chien en camion, pas les anarchistes, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai pas le terme punk à chien, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça un peu péjoratif, mais donc, voilà des gars comme ça. Du coup, voilà, franchement, les gars adorables. Donc, je devais rester une journée, j'ai fait 5 jours avec eux au final, à dormir dans une tente, tu vois, une tente où il y avait que la bouffe, j'avais rien de quoi dormir et tout. Donc, on était là, j'ai vécu avec eux, tu sais, dans leur mood, dans leur monde pendant 5 jours. Donc, bah voilà, on fumait, on buvait. Et un soir, ils m'ont dit, bah tiens, ça te dit de prendre, tu sais, une petite demi, un petit demi de goutte de LSD. Je dis, bah, là, je suis dans le voyage spirituel déjà. Je partais en moto tout seul. Tu vois, j'étais vraiment, s'il y avait un moment à le faire, c'était ce moment-là. Là, franchement, j'étais tout seul en moto, j'étais en libre. Si je me retrouve là, il y a une raison, il me propose ça. Je fais, bah, je vais suivre juste ce que la vie me met en place. Donc, il me propose, bah, allez. Et grosse claque le premier soir, mais dans le bon terme. Hein. Et deuxième soir, pareil, là, on reprend une petite goutte de LSD. Et là, ouais, j'ai, pour moi, ça reste une des plus grosses expériences de ma vie. Comme je dis, c'est pas de la drogue récréative. Pour moi, le LSD, si tu vois, tu peux, t'as quoi, t'as l'AMD, t'as les tasses, t'as la coke, t'as tout ça, plus drogue récréative. Pour moi, le LSD, je considère vraiment comme voyage spirituel, sans faire le gourou, hein, mais voyage spirituel, parce que ça m'a ouvert pas mal l'esprit. Ça, c'est le cas de le dire en plus. Mais c'est moi, ça m'a aidé. C'est-à-dire que c'est une grosse expérience. J'ai appris pas mal de choses sur moi-même. Sur ce côté-là, tu deviens un peu ton propre psychologue. En fait, toutes les questions que tu as au fond de toi, bah, alors, je vais pas vous, voilà, dans ce podcast, je ne dis pas ne prenez des drogues. Je donne juste mon expérience derrière. Mais voilà, moi, ça m'a aidé sur pas mal de points, un peu comme l'ayahuasca, hein, je pense que tu dois connaître. Enfin, on en a déjà parlé, même. C'est pareil, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Voilà, moi, sur ces côtés-là, les drogues, sur le côté, voilà, voyage spirituel, ça m'intéresse énormément. Et après, voilà, ce petit voyage sous les ailes, bah, j'en suis ressorti quand même, je trouve, grandi. J'ai appris pas mal de choses et c'était une des grosses expériences pour moi de ma vie. Steve Jobs le dit aussi. Vous pouvez aller voir, c'est ma référence. Ouais. Il l'a sorti. Tu vois, bah, ça va, si lui il dit, c'est bon. Non, mais,
c'est validé par monsieur Apple.
ouais, ça a resté une grosse expérience aussi et qui m'a permis de, voilà, bah, comme tu parlais un peu, voilà, des énergies de soi, des autres. Donc, moi, c'était une expérience qui m'a, ouais. Donc, l'ayahuasca, je serais tenté, je pense que je le ferais, bah, je le ferai dans ma
vie. Ouais.
On avait parlé déjà un petit peu.
Bien sûr, bien sûr. Bah après, c'est pour ça que je te disais, moi, c'est des sujets qui me passionnent, comme tu sais, tu vois, on en avait parlé tellement, et puis on a beaucoup d'amis qui sont dedans, soit qui utilisent régulièrement, ou soit qui simplement ont utilisé. Et puis après, de toute façon, là, pour faire aussi le parallèle avec les voyages des arts martiaux, dans le monde martial, c'est permanent, en fait, la relation avec les herbes, avec les plantes.
Ouais.
Parce que mine de rien, tu as besoin de quelque chose, hein. Comme tu disais, aller dans une cage se battre, c'est pas. Ouais. Il faut quelque chose, en fait. Il faut que tu essaies d'élucider ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Pourquoi tu fais ça? Pour qui? C'est quoi le trauma là que tu essaies de résoudre? Parce que c'est qu'un vecteur de résolution de traumatisme et d'élévation. C'est rien d'autre.
Ouais.
Si tu recherches vraiment la guerre et le combat, bah, mets-toi en uniforme et va à la guerre. Là, ce qu'on fait, c'est pas ça. Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est des années-lumière de ça et pourtant qui se rapproche de ce moment, la vie ou la mort. Ouais. Après, ça peut être pareil avec la chasse, avec la pêche. Les mecs qui vont, tu sais, en randonnée 6 jours chasser l'élan, ils te racontent la même chose. Ils disent, non, mais attends, je vis.
Ouais.
Moi, il y avait, tu vois, il y a ces mots-là qu'on emploie très peu, mais où, tu sais, tu as une sensation, tu dis, j'existe. J'existe, quoi. Mm. Des trucs où tu dis, waouh, c'est puissant. Et c'est vrai qu'il y a peu d'expériences de l'humain moderne qui nous permettent d'avoir ça. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être pointé du doigt et qui est tragique. C'est qu'on n'a plus du tout accès à ça. Alors que ça soit par l'intermédiaire des plantes, de cérémonies, ou simplement par la vie, des vraies expériences de vie intenses. C'est pour ça que moi, même dans le podcast, j'ai toujours promu la compétition, la performance, que ce soit la danse, que ce soit les sports de combat. Faire des trucs qui sont hors du commun. Parce que déjà là-dedans, t'as accès à ce flow. On en parlait même dans le podcast précédent avec Jérémy, il disait, j'arrive à la compète à midi, je ressors à 8h, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Je suis état de transe.
Ouais.
Je suis ailleurs. Et donc, il y a des pratiques qui nous permettent de faire ça. Même la méditation. La méditation, il y a beaucoup moyens d'accéder à des transes et à des choses comme ça pour celui qui pratique consciencieusement et longtemps. Par exemple, l'ayahuasca, la LSD. Il y a des choses qui nous permettent de vivre des expériences de connexion. Tu te dis, en fait, je suis pas que cette enveloppe charnelle.
Ouais.
Il y a autre chose et que je suis multidimensionnel et que ça le mérite, en fait, que j'explore là-dedans, parce que à la fin de ta vie, tu vas pas regarder tout ce que tu as fait sur l'ordi, tous les salaires que tu as eu, tout ça, ça va pas compter, mais du tout, même pas un poil, quoi. Mm. Ce qui va compter, c'est les moments de rire, c'est les enfants, c'est ça qui va compter. Et pourtant, c'est des choses sur lesquelles, comme tu disais, notre réflexion quotidienne, elle passe que très peu de temps dessus, très peu de temps à observer bah, regarde, mes poumons, ils fonctionnent, mon cœur, il bat, je vois les couleurs, j'entends. Et il y a des moyens, comme tu disais, de boum, zoomer in. Alors voilà, c'est vrai que il y a de l'abus dans tout. Même le gars qui fait que des combats, il y a de l'abus. La compète, c'est un abus aussi. Il faut faire attention, tu vois, avec tous ces outils-là. Mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. C'est important de remettre ça au cœur du dialogue, parce que ça fait partie de notre expérience de vie et ça fait partie aussi de toutes les civilisations. Toutes les civilisations ont le druide, le chaman, le médecin, le sorcier, l'alchimiste, l'explorateur du vivant.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça, le podcast, il est fait pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette expérience-là, peut-être en détail, peut-être avec toi, si tu as envie de partager justement quel type de pensée?
En fait, expliquer, c'est ce que je te disais, à expliquer, c'est... je peux l'expliquer un petit peu, mais tant que t'en as pas pris, tu peux pas le décrire en fait. Tu vois, c'est comme je dis, c'est comme si tu prenais ton cerveau, tu l'enlevais, t'en mettais un autre. En fait, c'est sur le schéma, c'est qu'en gros, t'as des secteurs, des secteurs dans le cerveau. Tu vois, j'ai pas le terme, on va dire des secteurs, si tu préfères. Quand tu prends du LSD, ça les enlève tout se mélange. Et c'est vrai que t'as une sensation de connexion où t'arrives. Mais c'est une question vraiment profonde. Tu vois, c'est pas tu prends ça et tu deviens teuteux. Non, c'est que tu réfléchis vraiment à pourquoi tu es là, le rapport aux autres, rapport à la nature. Ça dépend. Et après, ça dépend surtout. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper malléable. C'est qu'est-ce que tu veux. Tu peux prendre du LSD et te foutre devant un mur de son et kiffer ta soirée. Tu peux prendre du LSD et te foutre sur un canapé et faire l'introspection personnelle. En fait, ce qui est bien, c'est que ça dépend de ta soirée. Si vraiment tu veux être là, tu prends ça et moi je connais personne, j'ai appris ça, j'ai donné mon expérience. Parce que chaque expérience est différente et propre à chacun. Mais ça arrivait des personnes, ouais, bah moi j'ai bien dansé et tout. Moi je suis, bah attends, je comprends pas. Moi je me suis posé, je posais 15 000 questions sur moi, ceci, cela. C'est parce que moi je recherchais ça à ce moment-là. Et du coup, en fait, c'est vraiment toi, tu vas pouvoir, enfin, l'adapter plus ou moins à ce que tu veux et dans le mood que tu es aussi. C'est, tu vas pas prendre ça si mentalement ça va pas, si t'as des soucis et tout. Je sais pas, je conseillerais peut-être pas de prendre ça si t'es pas sur une bonne période ou un bon mood, parce que tu peux aller sur du très haut comme sur du très bas. C'est ça où faut faire gaffe aussi, c'est que voilà, tu peux vraiment sur du très haut, mais quand tu es sur très très bas, c'est que limite tu peux voir, enfin tu vois, tu peux avoir le goût de ta peur, tu peux en voir ta peur, tu vois, c'est chelou, c'est hyper bizarre. Il y a un très bon côté aussi derrière, donc c'est vraiment propre à chacun. Et et ouais, comme je te dis, voilà, tu t'enlèves ton cerveau, t'as la perception, tout change. Tu vois des effets visuels, tu ressens, enfin il y a vraiment tout qui est mélangé. Et moi je trouve ça très intéressant. Après voilà, comme je dis, c'est, faut que ce soit bien fait. Si tu pars en bad derrière, ça peut être costaud. Moi ça m'est arrivé où vraiment tu sens, ça m'est arrivé où bah en fait comme si ton esprit était décroché de ton corps. Et là c'est chelou, genre toi t'es comme si t'es en dehors un peu de ton corps, et voilà, tu contrôles plus, tu deviens qu'un esprit entre guillemets. C'est bizarre à décrire, hein. Je peux pas vraiment le décrire, mais... Et ces moments-là, faut t'accrocher, ouais, c'est costaud. Après, voilà, je vois ça comme un manège. Ça va durer 6-7 heures. T'as des hauts, t'as des bas. Après, ça se termine tout doucement. Et ouais, c'est un voyage. Pour moi, faut le prendre vraiment. Tu peux le prendre en récréatif. Mais si t'as des questions, si tu cherches quelque chose, c'est intéressant aussi à faire. Moi, je le conseillerais pour les personnes qui sont prêtes et qui ont envie de se faire, de si c'est bien fait avec quelqu'un et tout. Le mieux, c'est d'être deux. J'ai déjà fait tout seul, ouais, faut s'accrocher, parce que bah t'es tout seul avec toi-même. Mais c'était l'une quand même de celle où je l'ai prise et j'étais tout seul. C'était l'un des plus, ouais, des trips que j'ai fait les plus qui m'a le plus impacté, parce que ouais, j'étais tout seul, quoi. C'est-à-dire que là, j'étais tout seul dans un appart, parce que mon pote était parti en soirée, et j'étais en face d'un tableau et je voyais tout, je voyais ma vie en fait à travers le tableau. Enfin, c'était et j'étais tout seul. Et tout seul, je ne conseillerais pas dès le début tout seul, hein, parce que c'est costaud.
Mais... Tu ne vas pas faire un sparring le premier entraînement, il faut se calmer aussi.
C'est ça. mais après, voilà, tout ce que je dis, c'est mon expérience, c'est mon ressenti. Hein, peut-être d'autres personnes qui n'ont pas du tout kiffé. Mais des retours que j'ai, c'est que voilà, ce n'est pas quelque chose de récréatif où tu prends ça tous les week-ends. Ça, tu le prends, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu en prends à la limite 6 mois après. Là, et déjà, c'est tellement costaud que tu ne vas pas prendre ça tous les week-ends, c'est impossible. C'est pas...
Parce qu'après, ça fait penser. Bon, tu sais, de toute façon, on a des amis communs qui nous parlaient aussi beaucoup de ça. Parmi ces amis, on a certains chamans qui aident d'autres gens un peu à s'élever. Quand tu étudies aussi un peu l'histoire, même là, l'histoire moderne, tu vois, la centaine de dernières années, et un peu dès qu'on est arrivé un peu dans ce monde un peu où on cherche la consommation, etc. De la même manière que beaucoup de choses ont évolué, peut-être en moins bien, peut-être en bien, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'accès aux soins, etc. Il y a aussi cet accès à la nature qui a évolué. Les villes par rapport à la campagne, la densité de population par rapport à vivre en tribu, etc. Et donc, c'est intéressant, ne serait-ce que de ce point de vue-là, de se dire, OK, il y a des choses qui ont toujours fait partie de notre histoire commune, qu'on n'a plus, et que ça soit des traditions, des célébrations, que ça soit une manière de concevoir le monde, une manière de voir les saisons, une manière de voir l'année qui se déroule. Ouais. Il y a eu un milliard de calendriers, un milliard de civilisations, un milliard de... Et c'est intéressant pour moi, ne serait-ce que de ce point de vue-là, de s'intéresser à des outils comme ça, que ça soit que ça soit les plantes, que ça soit la méditation, que ça soit certaines pratiques physiques. parce que dedans il y a des gemmes de sagesse.
Ouais.
Ça reste des choses qui sont largement plus anciennes que nous et que notre monde moderne, monde à partir du 20e siècle, tu vois. On dirait que le monde, il a commencé en 1900, quoi. C'est pas possible. Avant les voitures, ah non, ça compte pas.
Le côté spirituel, il manque. Ouais.
Mais ouais, il y a tout un univers avant qui est bien plus long que nous. Et c'est ça que des fois où tu dis, putain, mais en fait, on a perdu aussi cette notion de perception du temps, quoi, de dézoomer. En fait, on a vécu bien plus longtemps que ce que nous, on sait maintenant du monde. Même en histoire, tu sais, t'as l'impression que t'apprends. Tu passes tellement de temps à étudier la Première Guerre mondiale que tu dis, avant ça, il n'y a rien. Mais alors que les trucs d'avant, ils ont duré 10 000 ans.
Ah oui.
Les civilisations égyptiennes, les Amérindiens, tout ça, ça a duré mais des milliers et des milliers d'années. Et nous, on étudie genre 4 à 5 années et c'est bon, en fait. Ça commence là-dedans. Et c'est ça, des fois, où tu dis, putain, mais en fait, si tu prends pas le temps de lire, tu prends pas le temps de t'instruire, tu prends pas le temps de voyager, t'éduquer, de discuter avec d'autres gens, justement, d'avoir accès à des conversations comme ça, avec des expériences comme ça, en fait, tu perds. Mais à des opportunités pour grandir qui sont incroyables. Et c'est pour ça que moi, tu fais ce podcast et c'est pour ça que je vais aborder tous ces sujets-là, que ce soit le voyage, là, la spiritualité, etc. C'est parce qu'en fait, je veux te redonner aux gens ces outils-là. Parce que c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le sens, c'est d'une importance capitale.
C'est ça. C'est pour nous, c'est hyper important, ouais. Mais après, voilà, comme tu dis, c'est que la société est comme elle aujourd'hui et du coup, on est dans une enfin pas dans une matrice, mais tu vois, ça déroule, on y va, on a pas, en fait.
Exactement. Ça déroule, c'est un tapis roulant et.
C'est ça, c'est comme, tu vois, le fil Facebook. Tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls, tu vois les trucs qui se passent, ta, ta, ta. Et c'est vrai qu'il y a des moments pour se recentrer un peu sur soi. Ça, c'est clair, c'est que sinon, tu t'es la tête dans le guidon et t'as du mal à voir. Mais bon, regarde, au final, tu vois, regarde, sur un an bossé, sur 52 semaines bossées, t'as 5 semaines de vacances. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'après, derrière, t'es tellement dans. C'est ça, tout va trop vite, tu vois, 52 semaines sur une année, tu vas en bosse, t'as 5 semaines de vacances, t'as pas le temps de faire de pause, t'as pas le temps de profiter. C'est pour ça que moi j'ai voulu aussi me mettre à mon compte et tout, c'est que moi la vie c'était inconcevable que je me dis j'ai que 5 semaines, tu vois, pour être en vacances ou pour profiter. Après tout ça dépend de chacun, mais moi là-dessus je pouvais pas, c'était pas possible de me dire non, je peux pas passer ma vie du coup à travailler, même si je travaille un long moment, mais quitte à travailler, bon, autant que je fasse quelque chose qui me plaise déjà, et voilà. Pouvoir prendre le temps si je veux, pouvoir me lever le matin si je veux, tu vois, c'est. Moi, ça me faisait. Je dis, un des choses qui a fait aussi, je pense que j'ai monté ma boîte et tout, c'est que déjà, enfin, j'aime pas recevoir des ordres, donc déjà, ça, c'est très compliqué. Là-dessus, j'ai du mal. Et je voulais surtout pas passer à côté de ma vie, dans le sens, sur mon point de vue, hein, je dis pas qu'en travaillant, tu passes à côté de ta vie, loin de là, il faut. Mais c'était, voilà, me dire, bah, je vais bosser pour quelqu'un et du coup, pas être libre. Moi, ça m'a fait flipper, vraiment, c'est pas, ouais, je suis fort, je vais faire ça. Non, ça m'a fait flipper de me dire que, bah, je pourrais pas être libre. Moi, ma liberté, c'est mon numéro un, hein, tu vois, ma liberté, c'est le truc, je sais pas comment on l'est, c'est un peu le côté gamin, hein, non, c'est mon jouet et tout. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est important pour ma liberté et c'était pas possible pour moi d'avoir ce côté là donc et comme je dis, hein, voilà, c'est ma version, hein. Il y a d'autres versions, je critique pas du tout, mais moi mon côté là c'était ma liberté, ouais. J'y arrivais pas et j'ai mis les choses en place pour pouvoir par la suite en profiter et avoir ce train de vie là, mais qui aussi apporte ses inconvénients derrière, voilà, c'est la balance, chacun, comme on dit, chacun peut choisir, quoi.
Puis voilà, ça te donne aussi accès à ces expériences là que ce soit, comme je disais, le voyage, là, partir en moto, vivre avec des punks, faire des petits trips, explorer un peu, quitter, etc. Et voilà, je pense que c'est important, tu vois, de designer son style de vie de sorte à ce qu'on s'autorise, ouais, à ces moments-là pour se recentrer. Après, peu importe l'outil, là, c'est vrai que c'est un outil qui est peu commun, donc c'est pour ça que j'avais envie de l'aborder, mais ça peut être partout. Il y a des gens qui écoutent le podcast qui n'ont jamais entendu parler de méditation ou d'arts martiaux.
Ouais.
C'est aussi une histoire de perspective, c'est-à-dire que pour nous, il y a des choses qui sont incroyables, et pour d'autres, ce que nous, on a déjà fait il y a 20 ans, c'était déjà incroyable. Donc au final, si on passe pas notre temps à partager, justement, on crée pas cet héritage qui booste le collectif. T'en parlais tout à l'heure, être égoïste, c'est ça, c'est justement pas dire, pas raconter, pas partager, pas donner, pas dire ce que t'as fait de bien et pas dire ce que t'as fait de mal. Parce qu'en fait, t'empêches l'autre d'apprendre. Et donc, en fait, tu l'empêches de grandir. Et donc, si les autres, ils te font ça à toi aussi, tu vas voir que toi aussi, tu grandis pas. On reste tous à stagner et à penser la même chose sur tous les sujets.
Ouais.
Pour moi, il y a rien de pire que ça, tu vois, rien de pire que d'être normal. Comme tu disais, là, par rapport au taf. Bon, je parlais que toi, tu vois, les ordres et tout, c'est pas possible, mais moi, c'est ça, c'est normal. Pour moi, j'ai jamais, jamais aimé ça. À l'école, même tout petit, je voulais toujours faire des trucs que personne faisait.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que moi, ma vie, elle a toujours été un peu aussi menée par ça. Je veux pas un truc lambda ou, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Je veux pas banal. Ouais, en fait, le mec, il a pas du tout mis ses mains sur le guidon, en fait. Il était sur les rails et c'est tout.
Ouais.
Mais il a pas du tout choisi. Il a pas pris une décision. Il a pas pris un risque. Et ça, pour moi, c'était ma hantise quand j'étais petit. Et tout ça pour dire que ces expériences-là, elles méritent d'être partagées, elles méritent d'être entendues. Il y a beaucoup de gens qui vont résonner avec ça, surtout sur ce podcast. Ouais. Là, justement, dans ces outils-là, qu'est-ce que toi, tu as pu peut-être utiliser? Est-ce que il y a des livres qui t'ont plu ou des documentaires ou des choses comme ça, des ressources qui t'ont permis petit à petit de plonger un peu dans cet univers ben voilà, des plantes, du truc un peu plus organique, ou c'est purement l'expérimentation et l'expérience un peu genre du vagabond quoi, qui tente?
Ouais, bah, comme tu as dit, expérimentation. Vu que j'aime bien tout tester, tu vois, que ça soit comme je te dis, tout, la plongée, tu vois, la moto, l'escalade, t'as vu, j'aime bien tout tester. Et là, pareil, expérimentation. Et après, une fois que j'ai pris, je me suis un peu renseigné quand même, parce que je me suis dit, waouh, c'est ouf quand même là ce que j'ai pris, comment ça fonctionne. Et après, du coup, là, je teste d'abord et ensuite, je me renseigne, tu vois, le mec est un peu con. Je t'avais quand même un petit peu renseigné, mais tu vois, je préfère tester. Et après, du coup, ça m'intéressait. Je me suis un peu renseigné et tout. Et puis, voilà, des documentaires parce que je galère à lire. Ça, ce sera un truc que je galère vraiment à lire. Et surtout, ouais, expérimentation, vraiment, c'est vraiment tester. Voilà, je pose le pour et le contre. Je vois si c'est... Après, je te dis, voilà, j'ai pas testé toutes les drogues. Tu vois, les drogues... Merde, j'ai plus le nom. Des drogues très dangereuses, j'ai plus les noms. Et je vais cadrer quand même ce que je teste, tu vois. Si c'est juste... défoncer, je suis accro derrière. Non, là c'est plus comme je dis, voyage spirituel. Oui, j'ai fumé, j'ai pris deux trois drogues et tout derrière. En fait, j'aime bien tout tester. On me dit quelque chose, mais voilà, tant que ça va rester, il y a toujours une part de risque. Et voilà, c'est pas voilà, tant que ça va rester, je vais pas en crever derrière. Donc non, c'est vraiment tester. Comme je dis, c'est vraiment une expérience. Et après.
Voilà. Et depuis, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences vers justement cette idée de voyage spirituel? Est-ce que toi, tu t'appellerais voyage spirituel? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? C'est sur cet événement-là, ou c'est quand même quelque chose après que tu essayes de maintenir à l'année, d'avoir une pratique ou d'avoir quelque chose qui te maintienne un peu cet état de conscience un peu alterné?
Je l'ai un petit peu quand je faisais un peu de méditation, j'avais testé. J'ai essayé parce que j'ai du mal, pareil, le matin, en fait, quand je me lève, tu vois, je suis speed, j'ai envie de... tabasser la journée. Et j'ai tenté de faire la méditation le matin, j'ai réussi un petit peu, mais voilà, après j'ai vite lâché parce que du coup ça, j'y travaille parce que j'aimerais bien, parce que ça me fait du bien le matin, de me poser, prendre du temps pour soi. Ça, c'est important, je pense, un des premiers pas déjà. Méditation, c'est ou juste se poser, on parle de méditation, mais juste se poser, respirer et ressentir un petit peu tes pensées. Déjà, c'est quand même quelque chose. Ou le soir à l'arrière, tu vois, mais juste déjà s'allonger ou fermer les yeux ou s'asseoir et réfléchir un peu à tout ça, je trouve ça aide énormément. Et après, derrière, pas plus que ça, je suis toujours là. Il me faut des mouvements, tu vois, des moments où je pars à fond et des moments où j'arrive à me canaliser. Et donc, c'est plus sur ce côté-là que je le fais.
Tu l'as très bien dit, c'est qu'il n'y a pas de formule, en fait.
Ouais.
Il n'y a pas de manière. C'est pour ça que là, c'est super, super important, en fait, ce que tu dis, même là, sur la méditation, c'est qu'il n'y a pas de manière. Méditer, c'est pas genre le petit bambou, faire ça. Ça peut être, comme tu disais, juste prends le temps, quoi. Lève-toi, assis-toi, ferme les yeux, regarde ou... marche, ou il y a des moments comme ça où c'est à toi d'actionner le truc. Comme avec la mobilité, quoi. C'est toi qui actionne.
Ouais.
Tu vois, c'est toi qui actionne le levier. Mm. C'est juste ça, en fait. C'est pas se mettre en action, quoi. Arrêter d'être passif. Et donc voilà, là, que ça soit les outils qu'on a mentionnés ou d'autres, vraiment peu importe, quoi. C'est chacun fait comme il veut. Et de toute façon, voilà, chacun sa personnalité aussi. T'es speed le matin, bah, sois speed, quoi. Essaye pas de... Il y a des gens qui vont lire, je sais pas moi, la routine de quelqu'un et qui vont dire, je vais essayer de la copier. Non, la routine, elle est là pour te donner des idées. Mais c'est pas pour copier, c'est pas pour imiter. C'est pour te dire, voilà, il y a plein de gens qui font ça. Essaye toi peut-être un de leurs outils ou essaye une manière. Essaye de voir sur plusieurs semaines si ça te correspond. Sinon, dégage le truc. Mais au moins, tu sais ce qui va pas. Ça t'aiguille vers ce qui va aller. Déjà, de savoir ce qui ne marche pas pour toi, c'est important. Et donc là, pareil avec ce qu'on dit là sur ces outils-là, un peu pour plus de spirituel, etc. Pour fermer la boucle un peu sur ce sujet, est-ce que tu dirais que, déjà, c'est à quel moment un peu que tu as commencé à t'intéresser à ça? Est-ce que ça a toujours été depuis tes débuts, là, quand tu faisais les sports de combat dès le début, que tu avais quand même cette notion qu'il y a autre chose, quoi, et qu'on n'est pas que dans un monde physique, ou c'est venu avec le temps? Et si c'est venu avec le temps, à quel moment, en fait, ça a commencé un peu à t'intéresser ces sujets-là?
Ah, c'est une bonne question, là, tu vois ce que tu me dis. Non, je pense, ouais, je pourrais pas dire. Je pense que c'est venu. Tu parles du côté spirituel ou le côté. En montant, ouais, avec les expériences, avec les combats, je pense. Avec les combats, avec le fait de monter là, ça et tout, de me dire qu'il y avait des choses qui étaient réalisables. On pouvait te dire non, faut pas faire ça. Tant que voilà, tu te conditionnais, qu'il y avait quelque chose aussi derrière, tu vois, qu'il fallait. Je pense avec ce qui est venu avec la prise de confiance en moi derrière sur qui j'étais, sur ceci, cela. En fait, c'est le cheminement, on va dire, que j'ai fait pour en arriver là. Ça s'est fait en chemin. tu vois, c'est pas eu un déclic comme ça. Je me suis dit, là, c'est que quand j'ai commencé à reprendre la salle, enfin, à faire des combats, à reprendre la salle, à monter tout ça derrière, à rencontrer des gens, j'ai toujours été comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait. Ça s'est fait tout le long du cheminement. C'est pas un jour, je me suis dit, tiens, faut te faire ça pour ça. C'est que c'est venu sur le parcours, mais c'est venu dans le début du parcours, tu vois, de me dire, ah, putain, je suis capable de ça, il peut y avoir ça. Et derrière, ça a ouvert d'autres parties. Je me dis, putain, bah, si mon cerveau est capable de faire ça, voilà, derrière, je sais que voilà, je vois que les relations avec les gens, je me débrouille bien. Enfin, tu vois, je suis, quand je suis avec les gens, tu vois, quand on discute et tout, je ressens bien les choses, j'arrive bien à voir à peu près comment la société fonctionne et ce que je devrais faire un peu en avance, tu vois, avec le MMA, ce qui a marché, c'est que j'ai fait un peu de choses en avance, que j'ai un peu analysé comment ça se passait. Et c'est peut-être mon cerveau, ma vision qui était comme ça, je voyais ça comme ça. Et je pense que ça l'a amené petit à petit. Tu vois, je me suis dit, tiens, je me débrouille pas mal là-dessus, ça va, j'arrive bien à analyser. Et ça, c'est venu, ce que j'ai tout le temps aux gens, c'est que moi, c'est venu par rapport au regard des gens, vu qu'au début, je faisais gaffe. On regarde des gens quand t'es plus petit, quand t'es machin, et ben je me suis servi de ça d'une force en fait. C'est-à-dire mon côté, ah non, on me regarde, j'aime pas ça, bah mine de rien, je savais ce qui pouvait plaire aux gens. Je savais par exemple si à la salle, ça c'était ça, ça allait leur plaire. Donc le côté, on va dire, ouais, regarde des gens que j'aimais pas au début, bah j'ai transformé en force. Et après derrière, ça m'a permis de m'aider à analyser ce que les gens aimaient, ce qui était possible, pas possible, comment je me présentais, comment ceci, comment cela. Donc j'ai réussi à travailler là-dessus, et ce qui en fait que. Donc, j'en suis aujourd'hui, c'est, il y a une grande partie grâce à ça, en fait. Donc, la faiblesse est devenue ma force, on va dire, derrière. Et je travaille encore dessus, tu vois, avec toujours un peu le regard des gens où, maintenant, je commence à m'en battre les couilles un peu plus parce que vu que, du coup, c'est ce qu'il faut, en plus. Il y a des gens, ils l'ont dès le début. Tu vois, moi, je l'ai pas eu, mais ça m'a aidé à faire la salle, à faire ce que je suis aujourd'hui et tout. Et là, maintenant, je commence à me dire, voilà, on peut cracher sur ta gueule, tu vois, moi, sur la salle. Voilà. Il y a des gens, forcément, ils vont cracher, ils vont ceci, cela. Mais maintenant, je sais où j'en suis. Et ça me touche beaucoup moins. Maintenant, j'en ai tellement pris, ça m'impacte beaucoup moins. Et voilà, je trouve, donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que ça peut être une faiblesse au début, ça peut devenir une force derrière, comme plein de trucs. Un handicap peut devenir une grosse force derrière. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est, tu vois, je l'ai amené comme ça, on va dire.
Simplement vivre tes expériences et comme tu disais, en fait, comprendre qu'à mesure que t'avances, ce que tu pensais au début être des poids, c'est pas nécessairement des poids. Ce que tu pensais aussi au début être des forces, elles sont pas vraiment des forces. Tu vois, des fois, c'est des gros pièges aussi.
Ouais.
L'inverse, il est vrai. Et puis voilà, quoi. Laisser le temps au temps, quoi. Tout simplement. Eh ben, écoute, magnifique. Magnifique, mon Flo, sur ces belles paroles. On va passer dans la dernière phase du podcast, si tu veux bien.
Ouais.
Une phase dans laquelle je pose 4 questions aux invités. C'est toujours les mêmes. Des questions un peu rapid fire, quoi. Tu réponds ce qui te vient maintenant, quoi, sans trop réfléchir. Qui permettent aux gens par la suite qui vont sur le site, ils ont les réponses de tous les invités. Et comme ça, après, eux, ils peuvent se concocter leur propre petit panier d'outils utiles. Ouais. Et comme ça, ils font leur propre mixture basée sur des invités qu'ils ont appréciés, qu'ils ont écoutés, avec lesquels ils ont raisonné. Ça marche ?
Ouais.
T'es prêt ?
Ouais.
Ok, la première question, qui va être une réponse intéressante de ta part, j'imagine. Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi ? Et si c'est pas un livre, tu choisis une autre source. Ah, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux, mais c'est vrai que moi j'avais l'idée du livre parce que comme ça les gens ils peuvent l'acheter, ils peuvent le voir. Mais si t'as une autre source, quelque chose comme ça qui donne du savoir, quelque chose qui transmet le savoir, ça peut être autre chose.
Okay.
Film, documentaire, ce que tu veux.
Film, documentaire. Alors là, ouais, tu pas trop film, pas trop. Ah, un film que j'ai apprécié, je conseille de voir aux gens, c'est Forrest Gump. Voilà. Ouais, moi c'est ça.
Dis-nous en plus pourquoi. Pourquoi ce film?
Ah, je sais pas, moi il m'a marqué. Il m'a marqué le fait, tu vois, il est attendrissant, tu vois, le fait, voilà, le petit enfant handicapé qui au final est un génie, tu vois, incompris entre guillemets, que les gens pensent handicapé, mais qu'un génie incompris, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, il réussit. Et j'aime vraiment ce film là-dessus sur ce côté-là en fait. C'est-à-dire que voilà, tu peux être pas compris par entre guillemets la société, mais voilà. Il y a deux intelligences. T'as l'intelligence qu'on veut te donner à l'école et t'as l'intelligence, on va dire, entre guillemets, humaine où tu vois ce que je veux dire, l'intelligence à l'école. Voilà, tu retiens bien tes leçons, t'es fort là-dessus, c'est ça. Et t'as l'intelligence humaine où voilà, t'es livré à toi-même et tu sais te débrouiller, comme on parlait tout à l'heure, avec une équipe, avec des gens, t'arrives à comprendre le monde qui t'entoure, en fait.
Une belle dose d'inspiration pour remettre les pendules à l'heure et peut-être s'orienter vers cette intelligence-là. Et je prône également. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont dire, putain, mais en fait, les mecs, ils détestent l'école. C'est pas du tout le cas.
Non, c'est bien aussi.
C'est bien aussi. Il y a du bon et du moins bien. Ouais. Ok, bah écoute, c'est noté pour cet outil-là. Deuxième question. Si tu avais un message à laisser à l'humanité, comme on parlait tout à l'heure d'héritage, quel serait ce message? Ça peut être une phrase, un mantra, une citation, un mot, des mots, tu vois, que tu laisserais après ton départ physique? Quels seraient ces mots?
À l'humanité entière, entre guillemets.
On se rappellerait de toi, ce serait ça, quoi,
Mmh.
le message pour les gens.
Ah putain, tu me poses une colle là, des proverbes.
Non, ce que tu veux, hein, même ce qui est important pour toi, quoi, que tu aimerais que les gens peut-être se rappellent, retiennent.
Ouais, franchement, moi, ça serait, tu sais, l'amour et l'altruisme. Ça serait ces deux mots-là, en vrai. Ça fait un peu hippie, hein. Mais ça serait ces deux mots-là. Tu vois ce que je veux dire?
Dis-nous en plus pourquoi l'amour et l'altruisme.
L'altruisme, bah, le but, c'est voilà, comme tu as dit, on vit tous ensemble. Si on commence tous à être chacun dans notre coin, ça va être très compliqué à gérer. Et moi, je suis pour, tu vois, non, mais les bons moments de la vie, ou comme je te dis, voilà, quelqu'un qui va aider une autre personne dans la rue, tu vois, moi, ça me fait sourire. Un père avec son enfant, une mère avec son enfant, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu regardes les animaux, c'est pareil, je prends l'exemple de la savane, et c'est quoi les deux instincts de base, pour moi, c'est l'amour et après la survie. Tu vois, c'est les deux choses. Et quand tu regardes bien, je sais pas, tu prends exemple une lionne, elle va faire quoi? Bah, instinct de survie et l'amour. C'est les deux choses qui comptent. C'est déjà bah, survivre et ensuite, après avoir sa progéniture, les protéger. Sans ça, c'est l'anarchie. Il n'y a plus rien derrière. Donc la première des choses, ça serait l'amour parce que bah, du coup, si on vit pas ensemble, et l'altruisme, c'est pouvoir, c'est pas côté un peu hippie, mais voilà, chacun s'aider et ne pas descendre les autres. Si chacun, c'est un peu utopique, hein, mais voilà, chacun pourrait vivre. Avec la compassion, l'amour et pouvoir aider les autres ou s'entraider, hein, tu vois, tout simplement, ça changerait beaucoup de choses.
Amen, des belles paroles, des belles paroles. Merci de ce beau partage. Troisième question, mon Flo. Là aussi, une question, une réponse intéressante. Ta routine matinale parfaite dans un monde idéal, s'il n'y en a une.
C'est l'actuel où je vis? Ou genre.
Peu importe, comme tu veux.
Parce que moi, la routine matinale, déjà, je serai au soleil, mon gars. Je me lève, je me lève le matin. En parlant que j'ai toute la motivation du monde, hein, tu vois, le truc parfait, quand si j'ai toute la motivation du monde, je me lève le matin. Je me lève le matin, je fais la mobilité. Un peu de mouvement, tu vois, un peu de décompression du corps. Petit déj au soleil. Et ensuite, tu vois, je suis pas loin de la mer, je vais me baigner. Et après, je commence à bosser.
Magnifique, magnifique, c'est simple. Ça, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Bah, écoute, dernière question, mon Flo, qui n'est pas vraiment une question. Pour les gens qui ont un peu apprécié tous les sujets qu'on a abordés ou qui veulent te contacter, soit bosser avec toi, soit rejoindre la salle, soit te poser des questions un peu plus sur les différents sujets, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Est-ce que tu peux nous partager tout ça? Comme ça, moi, j'ajouterai tous les liens à la belle page de l'épisode.
Et ben, oui, c'est ça que j'ai pas trop parlé de la salle, de ce qu'on faisait là-bas, mais de toute façon, sur Facebook, ils verront un peu tout ce qui se passe, hein, les sports de combat et tout ça. Donc, la page Facebook, pour voir un petit peu ce qu'on fait, parce que le site internet est en maintenance pour le moment. Donc, la page Facebook du club, et sinon, après, pour me contacter, bah, mon numéro de téléphone directement.
Ok, parfait. On mettra ça et puis pourront parler avec toi directement, te poser des questions et puis peut-être rejoindre la salle. Bah écoute, c'est magnifique, mon Flo. Est-ce que tu as des dernières paroles à nos auditeurs avant qu'on quitte ce bel enregistrement?
Non, bah merci à toi, tu vois, de ce petit podcast. Ça fait un petit moment, tu vois. Même si je suis pas une fille facile, j'ai mis du temps, tu vois, avant de me délivrer et de venir vers toi. Mais non, merci à toi, franchement. Mais après, je passe un bonjour à toute la communauté. Puis voilà, bah j'espère qu'on fera des petits stages à la salle et qu'on se reverra surtout. Déjà, une première chose, ça commence à faire un petit bout de temps. Et ouais, bah, donc voilà, tout le monde est bienvenu à la salle et pourquoi pas faire, bah, comme tu as dit, un petit séminaire, une petite retraite à la salle, comme on a déjà parlé. Donc ça sera avec plaisir.
Avec grand plaisir. Ce serait magnifique. Et ben écoute, je te remercie, mon Flo, d'avoir pris le temps pour ce bel échange. Je remercie tout le monde d'avoir écouté ce bel épisode. Comme d'habitude, toutes les ressources, tous les liens dont on parle sont sur la page dédiée que vous allez retrouver dans la description. Merci encore les movers, abondance, gratitude et bienveillance. Oh oui, les movers, une bien belle conversation cosmique, comme d'habitude. Pour retrouver toutes les informations, les notes de cet épisode, les liens, les ressources et l'offre de notre invité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. Vous allez pouvoir retrouver
l'épisode avec tous les différents chapitres, toutes les différentes thématiques. Retrouvez les liens qu'on mentionne, notamment sur les ouvrages, les films, les sites internet, comment contacter l'invité, les différentes routines matinales qu'il implémente. Également une section dans laquelle vous allez pouvoir accéder au service de notre invité avec des réductions. Voilà, c'est l'offre du Movers pour vous. Et si vous voulez évidemment voir notre invité, une petite section l'invité en mouvement va vous permettre d'avoir un peu le visuel avec l'audio. Comme d'habitude, mes petits appels à l'action en fin d'épisode. Encore une fois, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma formation gratuite routine de mobilité, n'hésitez pas, le lien est également dans la description de ce podcast. Retrouvez une routine de mobilité simple, accessible, efficace, avec 21 exercices pour adresser la mobilité de toutes les articulations pour une routine de 15 à 20 minutes quotidienne. Comme d'habitude, c'est gratuit, il y a des vidéos et un PDF explicatif. N'hésitez pas à vous inscrire simplement en me donnant un email. Ensuite, pour aider à la promotion de ce podcast, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. C'est littéralement comme ça qu'on arrive à améliorer la popularité de ce podcast et ce qui me permet d'inviter des movers toujours plus exceptionnels avec un background et des outils pour vous encore plus importants. Voilà, c'est un des moyens de me soutenir. N'hésitez pas à laisser une évaluation iTunes, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. Et voilà, ça aide à amener toujours des invités exceptionnels et à continuer voilà, la production de ce podcast entièrement gratuit pour vous les movers. Encore une fois, merci de l'intérêt que vous portez à tout ce contenu. Abondance, gratitude et bienveillance les movers. Et à dimanche prochain pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Shaku feel love, I wanna zanku for your love.